Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Je me dis, mais pourquoi j'ai accepté ça à l'époque? Alors, je sais pourquoi, parce que j'avais un certain nombre de peurs, et donc, du coup, j'avais peur de ne pas retrouver, j'avais peur de ne plus être capable, j'avais peur aussi qu'on me reproche d'avoir 2 enfants, parce que la situation avait fortement changé entre le avant avoir des enfants et depuis que j'avais des enfants. Déjà, le premier renoncement, c'est le renoncement, en fait, à ne pas rester malheureuse. Ok, tu es victime, mais tu peux prendre la décision, même si tu es victime, de le vivre différemment, de le vivre positivement. Et c'est vrai qu'on passe souvent par une phase inconfortable. Moi, quand je suis passée de salariée, du coup, à 100% indépendante, tu te poses la question quand même, hein. Tu te dis, bon, t'as une famille de 4 loulous, t'as des frais, t'as des charges, etc. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais réussir? Et puis finalement, oui, quand tu mets les moyens, tu réussis. Ça prend plus ou moins de temps.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Quel plaisir d'échanger avec vous et de lire vos commentaires sur mon projet. Si vous avez un message, une question, une suggestion, rendez-vous sur Instagram, sur le compte pourquoipasmoi.co. Et vous pouvez toujours vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Pour moi, c'est énorme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle femme exceptionnelle. Nathalie a fait une école de commerce et a débuté sa carrière en agence digitale. Si l'on regarde son profil LinkedIn, on se dira qu'elle a eu une brillante carrière car son dernier poste de salariée a été directrice digitale marketing dans un grand groupe. Nathalie est brillante, elle est également maman de 4 enfants. Chaque retour de congé maternité a été pour elle un calvaire. Pour rebondir positivement et aider les femmes, les futures mamans et les mamans, Nathalie a créé Maman Digitale. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Nathalie Grimaud.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Avec plaisir. Alors, j'ai choisi en fait de me présenter avec mon téléphone portable. Alors, hier, je me posais un petit peu la question justement de quel objet me représentait le mieux en ce moment, ces derniers mois, ces dernières années. Et en fait, je ne trouvais pas, donc j'ai demandé à mon mari qui m'a dit « Mais bien sûr, ton téléphone portable, puisque j'enseigne aujourd'hui aux mamans à travailler depuis leur téléphone portable pour être justement en mobilité, ne pas être à un poste en particulier et pouvoir faire leurs tâches, notamment de community management. »
Génial. Avant qu'on parle de ta vie de maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, est-ce que tu pourrais nous parler de là où tu viens, où est-ce que tu as grandi?
Avec plaisir. Donc, moi, je suis une fille de militaire. Donc, j'ai énormément déménagé partout en France. J'ai fait plus de 16 déménagements dans ma jeunesse. Donc, voilà, plus d'un déménagement tous les 2 ans, hein, enfin, ou un an et demi globalement. Donc, je suis plutôt une globe-trotteuse. Aujourd'hui, j'habite dans Lyon, mais précédemment, j'ai habité pendant quelques années à Paris. Je suis partie aussi à l'étranger, en Espagne, à Madrid. Donc voilà, j'aime bien bouger et j'aime pas être toujours au même endroit.
Comment tu le vivais Alors, de toute façon, il n'y avait pas le choix, mais comment tu le vivais, petite, le fait de déménager tous les 2 ans? Parce que j'imagine que pour les amis et compagnie, ça ne devait pas être simple.
C'est vrai que ce n'était pas simple du tout. Je dirais, tant que j'étais petite, pas arrivée à l'adolescence, ça ne posait pas trop de problèmes très rapidement. Hein. Il suffit de jouer 5 minutes avec un enfant et ça y est, ça devient notre meilleur ami. L'adolescence a été un petit peu plus compliquée puisqu'effectivement, j'ai été déracinée donc en 5e, puis après en 3e. Et d'ailleurs, j'ai dit en 3e à mes parents qui, à l'époque, étaient mutés sur Paris. Enfin, mon père était muté sur Paris. On venait d'Aix. Je lui ai dit, moi, je reste à Aix. Dans un internat, il n'y a pas de souci, mais je ne monte pas à Paris. Donc, au début, mes parents, pensant que je n'étais pas sérieuse, m'ont dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et ensuite, quand ils ont vu que j'étais sérieuse, ils se sont dit, non, non, en fait, tu montes à Paris avec nous, il n'y a pas le choix. Mais c'était plus compliqué quand j'ai été effectivement grande, parce que forcément, j'étais toujours la petite nouvelle, que ce soit dans le collège, que ce soit dans le lycée. Donc, il fallait à chaque fois que je me raccroche, en fait, à des groupes qui étaient déjà existants et qui se connaissaient parfois depuis la maternelle. Mais ça m'a permis aussi, bah, de finalement, de développer plus d'adaptabilité finalement au monde, parce que bah, voilà, j'étais obligée de faire moi le premier pas, comme j'étais toute seule, hein, de faire le premier pas, d'aller de l'avant, de discuter avec les gens pour pouvoir retrouver ma place au sein d'une classe, au sein d'un collège, au sein d'un lycée. Donc finalement, je pense que ça m'a apporté beaucoup.
Ouais, super. Et c'était quel type de petite fille?
Je dirais que j'étais plutôt quelqu'un d'assez sage, enfin en tout cas c'est ce que disent mes parents, quelqu'un d'assez sage. Alors j'étais l'aînée, hein, donc l'aînée c'est toujours très cadré, ça veut toujours tout bien faire pour papa-maman, et ça veut, voilà, ça veut toujours être très très bien. Après en grandissant, j'ai eu un caractère qui s'est fortement affirmé, si je puis dire, et notamment voilà, au niveau de l'adolescence, je disais ce que je pensais à mes parents, donc il y a eu une période de... Comme tous les adolescents, hein, parce que j'en ai un à la maison là en ce moment, un petit peu plus difficile, mais globalement, voilà, j'étais quand même, comme j'étais une aînée, je montrais quelque part le droit chemin à mes frères.
T'avais combien de frères du coup? Enfin, tu as combien de frères? Deux frères,
Deux frères,
d'accord.
pas de sœur. J'aurais adoré avoir une sœur, mais malheureusement, pas de sœur.
Et quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves?
Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il faudrait aussi que je m'occupe de serpents. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, parce que je ne pourrais pas choisir les animaux. En plus, quand j'ai commencé à grandir, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de snacks qui arrivaient en France, donc des animaux avec lesquels j'étais pas du tout à l'aise. Et je me suis dit non, en fait, je vais changer de voie, ce sera très bien.
C'est marrant parce
Ensuite,
qu'on ne pense pas vraiment qu'en effet, au serpent, en tant que vétérinaire, ce n'est pas le truc où tu te dis spontanément,
non,
en
tout à
effet.
fait. Tout à fait, en fait, on pense aux chats, aux chiens, aller aux vaches si on est à la campagne, etc. Mais pas du tout aux snacks. Et quand je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais aussi gérer ce type d'animaux, j'ai dit non, 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 ça ne va pas être possible.
Ou au cochon comme copain dans Les Bronzés.
Exactement, tout à fait.
Et tu disais après,
Et
tu as
donc
eu...
après, je me suis tournée vers le journalisme en me disant que ça pourrait être intéressant de faire du journalisme. Et en fait, alors ma maman travaillait en fait à Radio France, donc ça m'a peut-être un petit peu aussi orientée forcément, même si elle n'était pas du tout journaliste, elle travaillait à la publicité chez France Inter à l'époque. Et puis en plus, ensuite, elle est passée chez la partie RH, service RH. Et puis par contre, j'avais... Mon papa qui n'avait pas une très très bonne image des journalistes. Donc à terme, je pense que ça a impacté sur mon choix. Et finalement, j'ai fait une école de commerce très, je dirais, très classique pour me donner l'opportunité de choisir ce que je souhaitais faire et vers quel secteur m'orienter. Et puis naturellement, je me suis orientée dans le secteur du marketing. Et j'ai découvert le secteur du marketing digital où je suis tombée vraiment par hasard dedans et j'ai adoré. Et voilà, ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis dans ce domaine-là.
Et quand t'as décidé de faire une école de commerce, comment tes parents l'ont accueilli, ton entourage?
Plutôt bien. Pour mon papa, c'était vraiment important de faire des études. Je pense comme pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents. Parce qu'en France, malheureusement, quand on n'a pas d'études, on a plus de difficultés en fait à trouver un travail. Ça ne veut pas dire qu'on est moins compétent, mais dans l'état d'esprit des Français, ou en tout cas de notre culture, on est comme ça. Si on a fait des études, on a des meilleurs postes, on a des meilleurs salaires, etc. Donc, ils l'ont plutôt bien accueilli, même si dans l'idéal, mon papa aurait adoré que je fasse une école d'ingénieur, mais bon. Les maths et moi, ou en tout cas la physique et moi, n'étions pas très très amis à l'époque.
Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ce qu'on se disait tout à l'heure hors micro, c'est qu'on a fait la même école de commerce, mais on ne se connaissait pas parce que tu étais en dernière année de l'école, la première année où moi j'étais là, donc on s'est croisés, elle est 3 mois à l'école, donc on s'est pas vus. Mais c'est rigolo,
Exact.
d'avoir les chemins qui se croisent.
C'est clair, c'est très marrant.
Et donc, suite à cette très très grande école de commerce qui s'appelle l'IPAG,
Pour ne
comment ça
pas
se...
la
Voilà
citer.
exactement. Comment ça s'est passé pour toi?
J'ai intégré, donc juste après ma dernière année, donc j'ai intégré une agence spécialisée en référencement naturel que je ne connaissais pas du tout. Et mon intégration a été un petit peu particulière puisque j'ai intégré l'équipe commerciale. J'étais la seule femme de l'équipe commerciale. Il n'y avait que des hommes. Et dans un premier temps, j'ai été vraiment, je dirais, mise sous cloche un peu par mon directeur commercial qui jouait une sorte de deuxième parent, si je peux dire, ou voilà, qui était très protecteur. Et le jour où j'ai commencé à faire du chiffre, ça s'est gâté. Alors peut-être qu'il s'était dit qu'une femme n'était pas capable de faire du chiffre d'affaires, etc., à tel point que j'avais des collègues, donc mes autres collègues masculins qui prenaient ma défense en réunion commerciale. Donc ça a été assez, du coup ça a été un changement qui a été assez violent, parce que voilà, il est passé de très protecteur quasi papa à tout d'un coup je t'envoie des piques non-stop alors que j'étais aux objectifs, que j'étais aux chiffres. Donc, je ne suis pas restée très, très longtemps. Je suis restée 10 mois en tout dans cette entreprise. Et puis, j'ai eu l'opportunité de changer et de basculer dans une autre agence, une petite agence digitale qui venait de lancer les toutes premières campagnes avec Google à l'époque. Donc, c'était 2002. Hein, c'était le tout début. On a été la première agence à lancer ces campagnes. Et puis, j'ai commencé à me passionner pour le référencement payant, pour voilà, la gestion de ses clients, etc. Et puis, ça n'a jamais démenti depuis je dirais, cette deuxième expérience, en tout cas, qui était plus opérationnelle et moins commerciale.
Génial. Et là, bon, c'est… Via l'IPAG, tu avais fait des stages, donc tu connaissais un petit peu l'univers professionnel, mais j'imagine quand même que ça devait être un peu compliqué de se dire, ah bon, ça y est, j'ai mon premier vrai job. Sympa l'univers du travail.
Je dirais que, à part cette première expérience un petit peu particulière, voilà, tout s'est très très bien passé pour le coup pour moi jusqu'à 2006. 2006 a été la première année où… Enfin, a été l'année, pas la première année, mais a été l'année où je suis tombée enceinte de mon premier enfant. À l'époque, j'avais 26 ans, hein, donc plutôt très jeune.
Surtout pour Paris. Assez…
Pardon ?
Très jeune, surtout pour Paris.
Surtout pour Paris, et puis surtout dans le monde en fait du digital, où j'étais la seule de l'agence dans laquelle j'étais. Donc, entre-temps, j'avais changé d'agence, on s'était fait racheter par Performix, on faisait partie du groupe Publicis. Donc, on était devenu en fait un gros mastodonte en termes d'agence digitale. Et j'étais en fait la première à tomber enceinte et la première à devenir maman. Alors déjà, il y a un décalage qui se fait avec les collègues parce que tous les collègues le soir vont prendre des pots, discuter, restent jusqu'à pas d'heure. Et puis nous, en tant que maman, ben non, on peut plus en fait, hein, parce que ben, la nourrice, elle ne va pas rester jusqu'à 23 heures et puis on a envie de voir notre petit bout. Donc 18 heures pétantes, on part. Ça fait déjà un décalage avec les collègues. Et en fait, pendant mon congé maternité, j'ai eu, donc l'entreprise a été rachetée par Publicis et surtout j'ai eu un changement de manager, un nouveau manager qui est arrivé et qui avait dit de toute manière à tout le monde que je n'étais plus motivée par le travail et qui m'a mis en fait au placard dès que je suis rentrée de congé maternité dans l'optique, mais ça je l'ai appris après bien sûr parce qu'au moment je ne comprenais pas trop, mais dans l'optique de me faire démissionner. Et d'embaucher quelqu'un qu'il souhaitait embaucher depuis déjà pas mal de temps puisque lui venait d'une autre agence et il voulait récupérer en fait une partie de son équipe au sein de l'entreprise. Donc ça a été une période en fait assez difficile où j'ai récupéré que des clients qui voulaient partir de l'agence qui n'étaient pas contents, où on m'a enlevé mes clients internationaux, notamment je travaillais avec La Redoute Espagne, je suis bilingue espagnole. Et le prétexte a été de mon manager que je ne savais pas parler espagnol. Donc là, je suis un peu tombée de ma chaise en disant mais il n'a pas lu mon CV, c'est pas possible. parce que je suis bilingue espagnole, donc voilà. Et ça a été une période qui a été assez difficile, où je me suis quand même accrochée, mais où je me suis dit, je vais finir par rentrer chez moi et juste m'occuper de mon fils. Et puis voilà, en fait, j'arrête tout parce que ce n'est pas possible de travailler dans ces conditions-là. Donc ça, ça a duré quand même pendant à peu près 6-8 mois. Et heureusement, parce que tout le monde n'est pas comme ça, heureusement, dans cette même agence, il y avait un autre manager d'une autre BU avec lequel j'allais travailler avant de partir en congé maternité, qui avait adoré en fait la façon dont on travaillait ensemble, etc. Et à l'époque, il y avait un projet de lancer en fait Performix. L'entité Performix était une entité un peu test pour Publicis, pour travailler avec les agences Zenith, Optimedia, qui étaient plutôt des agences traditionnelles, et pour devenir vraiment l'agence digitale du groupe Publicis. Et ça a quand même bien fonctionné, les résultats étaient au rendez-vous. Donc très rapidement, on a ouvert en fait le même type de structure en Angleterre, qui a très bien fonctionné. Et la direction a voulu ouvrir l'Espagne et l'Allemagne. Et donc, ce manager s'est rapproché de moi en disant, je sais que tu parles espagnol, moi, j'adore bosser avec toi. Est-ce que tu serais intéressé pour aller ouvrir Performix Espagne?
Donc, du coup, et déménager donc, en Espagne?
Et du coup, déménager en Espagne, donc avec mon petit bout qu'avait, quand j'ai déménagé, à peine 18 mois, même pas, que j'ai déraciné, que j'ai mis dans une crèche espagnole du jour au lendemain. Donc, ça a été pareil pour lui, un petit peu. Le temps d'adaptation, les 3 premières semaines ont été difficiles. Parce
qu'au ton début, mari, du coup, il a pu te suivre aussi
Pas tout de suite. Il m'a suivi la deuxième année. La première année, on est resté ce qu'on appelle en célibataire géographique. Donc moi, je remontais à l'époque, j'avais négocié du coup de travailler en 4-5e pour pouvoir remonter le jeudi soir et passer vendredi, samedi, dimanche sur Paris.
Donc du coup, t'es partie vivre à Madrid ?
Oui.
À Madrid, avec ton petit bonhomme de 18 mois et toute seule, en gros, nouveau poste, seule avec ton fils de 18 mois.
Exactement, ah. Et avec mon mari qui était à Paris.
Ah ouais, sympa.
Donc, on a fait ça. En fait, on savait que de toute façon, c'était limité dans le temps puisque moi, j'avais un statut de détaché à l'époque. Donc, le statut de détaché ne peut être fait que pendant 2 ans. Ensuite, soit on rentre dans le pays initial, soit on bascule dans le pays, en fait, qui nous a accueillis. Mais voilà, c'est pas comme le statut d'expatrié. On peut pas être expatrié, enfin, on peut pas être détaché pendant de nombreuses années. Du coup, je suis partie et grâce à ce manager, donc j'ai changé de manager. Ça a été une libération pour moi. Je suis partie à Madrid, je me suis éclatée là-bas pendant 2 ans, enfin surtout la première année. Et à la fin de la première année, mon manager me dit je vais partir, je vais quitter l'entreprise. Et il n'osait pas m'annoncer parce que je lui avais parlé des problèmes que j'avais eus à mon retour de congé maternité avec l'autre manager. Il a mis pas mal de temps à m'annoncer que mon ancien manager redevenait mon nouveau manager.
Ah. La bonne blague.
Voilà, donc la deuxième année a été moins sympa. Enfin, je me suis vraiment éclatée en Espagne, mais par contre, les relations avec la France ont commencé à être tendues parce que d'une part, par exemple, j'avais plus ce qui devait m'être payé ne m'était plus payé, mes commissions, etc. Donc, chaque fois, j'étais obligée de relancer l'entreprise. C'était vraiment très, très pénible. Et puis surtout, c'était ma deuxième année, donc je savais que soit je basculais à 100% en Espagne, soit je rentrais en France. J'avais demandé, en fait, pour pouvoir m'organiser, j'avais dit à mon manager en décembre, il me faudrait une réponse en mars, sachant que mon contrat se terminait fin juin, pour pouvoir, si je remonte en France, organiser l'inscription, rechercher un appartement, etc. etc.
Parce que ton mari, du coup, lui, il était...
Il m'avait suivi la deuxième année. D'accord. Il était venu à Madrid, donc on n'avait plus du tout de location à Paris. Enfin, on avait tout laissé, en fait. Et du coup, voilà. Et le 31 mars, j'avais toujours pas de nouvelles. Je relançais, oui, on n'a pas encore pris notre décision. Donc, ma manager en Espagne relançait en disant, nous, on aimerait vraiment garder Nathalie, donc on voudrait que vous vous positionniez pour pouvoir lui faire une offre, etc. Il ne se positionnait pas, il ne se positionnait pas. Et puis, finalement, ils m'ont donné une réponse mi-mai pour me dire donc, que je remontais fin juin, donc un mois et demi quand même, hein, pour organiser le déménagement, rechercher un appartement, etc. Et puis, entre-temps, comme j'avais vu que la situation se dégradait, j'avais dit à mon mari, c'est peut-être le moment de mettre la deuxième en route. Et donc, de ce côté-là, moi, j'ai la chance de tomber facilement, même très facilement enceinte. Donc, effectivement, dès le mois de mars ou avril, j'étais enceinte. Avril, je crois. J'étais enceinte d'une petite fille qui est née, en fait, fin décembre. Et donc, je suis rentrée enceinte à Paris.
Là, ça a dû plaire à ton manager ?
J'avais toujours le même manager. Ouais, donc
ça a dû lui plaire, toujours... du coup.
Ouais, je ne l'ai pas tout de suite annoncé parce que j'ai attendu les 3 mois. Et en fait, les 3 mois arrivaient au moment plus ou moins où je remontais à Paris. Donc, je m'étais dit, je leur annoncerai. J'aurai le document officiel en plus d'un médecin français, d'un gynécologue français, etc. Donc, je leur annoncerai à ce moment-là. Et donc, le premier jour où j'arrive dans les locaux, je suis convoquée par la directrice des ressources humaines. De manière très officielle. Donc, au début, je ne fais pas trop attention en me disant oh, « c'est très certainement parce que je reviens de 2 ans de l'étranger, elle a des choses à me dire, etc. » Et en fait, non. Quand je lui annonce que je suis enceinte, elle me fait une mise à pied. Et derrière, j'ai eu un licenciement.
Et pourquoi ?
Sur que contester. Alors, soi-disant pour une faute grave, mais il n'y avait pas de faute grave, donc j'ai contesté au prud'homme et que j'ai gagné. Mais voilà, donc on se retrouve à 3 mois.
Donc en gros, ils te disent, tu rentres en France, tu prends tes clics, tes claques, et puis le jour où tu rentres, ben, en fait, on veut plus de toi, quoi.
C'est ça,
C'est
c'est ça.
sympa, c'est
Et parce
élégant.
que tu annonces que tu es enceinte quand même. Donc voilà.
Parce que tu ne penses pas qu'ils t'auraient fait une mise à pied dans tous les cas, même si tu n'avais pas
Ah
annoncé?
si, je pense que dans tous les cas, enceinte ou pas enceinte, ils auraient fait une mise à pied. Je pense que c'était leur stratégie. Parce que de toute façon, mon manager ne voulait pas de moi depuis déjà mon premier retour de congé maternité. Donc 3 ans après, j'étais toujours là. En plus, à nouveau dans ses équipes. Et effectivement, je me suis retrouvée donc à Paris. Mon mari qui avait quand même lâché son boulot l'année d'avant pour me rejoindre, donc lui était au chômage. 2 enfants, enfin un enfant de 4 ans et puis un enfant en route, sans boulot, sans. Là, on panique. On se dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est la catastrophe. Bon. En plus, moi, je suis très. C'est vrai que je me projette souvent, enfin beaucoup, même mon mari me dit beaucoup trop, sur l'avenir, sur les besoins du futur, si mes enfants ils veulent faire des écoles, s'ils veulent partir à l'étranger, si, 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 si. Donc, j'ai toujours tendance, en fait, à me projeter beaucoup d'un point de vue financier, à essayer d'économiser au maximum pour me dire si jamais demain j'ai besoin, ou en tout cas les enfants surtout ont besoin. Voilà. Et donc là, on se retrouve dans une situation où on se dit, OK, on va être tous les deux au chômage. On a 2 petits, on n'a pas d'appartement, on n'a rien. Enfin, c'est le cataclysme, quoi. Enfin, on se dit, c'est pas possible.
Tout ça enceinte, donc en plus avec les
Et enceinte.
hormones qui sont au taquet.
C'est ça. Donc, ça a été une période qui a été, du coup, très, très difficile parce qu'en plus, comme j'étais enceinte de 3 mois, enfin, de plus de 3 mois, 3 mois, 1 semaine, quelque chose comme ça,
Va
puis
trouver
moi,
un job.
voilà, chercher un boulot, puis moi, je prends toujours beaucoup de poids. Toutes mes grossesses, j'ai pris en moyenne 20 kilos. Donc, ça se voit quand même assez vite. Les premiers mois, déjà, je prends beaucoup, que je mange bien, pas bien, peu importe, hein. Et du coup, très, très vite, ça se voit, j'ai le ventre qui sort, etc. Et donc là, je me suis dit, chercher un boulot enceinte avec un bidon énorme, c'est juste
Ça
pas
sert à rien, quoi.
possible.
Ça sert à rien de perdre de l'énergie sur le sujet, quoi.
C'est ça. Donc là, bah, on attend, en fait. On attend, on attend, on attend, et puis on déprime, et puis on se dit c'est pas juste, et puis voilà. Donc il y a toute cette période-là qui a été assez compliquée. Et puis donc ma fille est arrivée fin décembre, donc avec 15 jours d'avance. Et là je me suis dit faut que je me mette à rechercher. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour retrouver un boulot. Donc je me suis mis à rechercher à peine 15 jours après mon accouchement. Donc autant dire que je n'ai pas profité de ma deuxième ni de mon congé maternité. Et j'ai trouvé très très vite un poste. Donc je voulais plus bosser pour le coup en agence parce que ça m'avait un peu dégoûtée en fait de l'agence. J'avais mis beaucoup d'énergie, je leur avais développé énormément de chiffre d'affaires en Espagne et j'étais toute seule. Et là je me suis dit pour être remerciée comme ça, ouais, stop. Donc je me suis dit je vais aller chez l'annonceur. Ça a l'air d'être plus cool. Bon, ça a l'air, hein, c'est toujours plus vert de vue de l'extérieur, pas forcément une fois qu'on y est. Et donc, j'ai trouvé en fait très très vite un poste. Et là, ils ont voulu que je commence tout de suite. J'ai eu beau leur dire non, mais je suis en congé maternité, etc. Non, non, on veut que vous commenciez tout de suite, etc. Et j'avais tellement peur de me dire s'ils ne me prennent pas, je vais rester au chômage et peut-être que je ne retrouverai pas, et peut-être, et peut-être, et peut-être. Et que du coup, j'ai pris. Et après coup, je me dis mais j'aurais peut-être dû profiter et leur dire de toute façon, c'est fin de mon congé maternité. Sinon, bah, tant pis, prenez quelqu'un d'autre. Et de toute façon, j'aurais trouvé, parce que c'est un secteur en fait, qui était en plein boom. Hein. Le digital, il y a toujours du potentiel, en fait, hein, des recrutements, des recherches. Mais voilà, j'étais tellement dans un move en fait, négatif à ce moment-là, du type ben, rien ne va, je me retrouve au chômage, et comment je vais faire financièrement, etc., que du coup, je n'ai pas été assez. Tranchante, si je puis dire, sur le fait, non, je finis mon congé maternité, je vous rejoins à la fin de mon congé maternité.
Et du coup,
Donc,
tu es
j'ai
arrivé au bout de combien de temps?
vraiment. J'ai commencé, je crois, au bout d'un mois et demi à peine. Donc,
Ouais, et en fait,
voilà.
tu dis, au final, ils auraient. Enfin, toujours les boîtes, c'est genre, on veut que tu arrives maintenant, mais en fait, en vrai, s'ils avaient recruté quelqu'un en poste, qu'il aurait eu son préavis. Et puis, toi, enfin, quand tu as une femme qui vient d'accoucher d'un bébé d'un mois, au bout d'un mois et demi, tu es crevée, ton bébé ne fait pas les nuits, donc tu as envie de dire, mais. C'est contre-productif parce que laissez-moi me reposer et arriver en forme plutôt que.
C'est tout à fait ça, et c'est vrai que du coup, bah, en fait, après coup, je me dis j'aurais pas dû, mais c'est vrai que sur le moment, Alors, je me souviens, j'avais pas osé à l'époque, moi j'allaitais, donc j'avais pas osé demander s'ils avaient une salle d'allaitement, machin. Je me suis dit, je suis en période d'essai, je vais pas commencer à leur dire. Donc, je me souviens que pendant les pauses, je descendais dans ma voiture, donc j'avais dans ma voiture toute l'installation réfrigérée, etc.
Truc
Donc,
de ouf.
je tirais mon lait dans le parking, je me planquais dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait dans le parking pour pas. Enfin, je me dis, après coup, je me dis, mais c'était n'importe quoi cette période.
C'est fou en fait de voir ce qu'on est prêt à accepter dans certaines situations et avec du recul, enfin, des trucs qu'on fait soi-même qui nous paraissent normales sur l'instant T, mais avec du recul, tu te dis mais comment j'ai pu accepter de faire un truc pareil?
C'est ça, c'est ça. Et je me souviens qu'à un moment donné, pareil, une fois j'étais en réunion et puis du coup j'étais engorgée, je pouvais pas sortir de réunion, j'en pouvais plus. Je me disais, c'est pas possible, je vais jamais venir, ça va déborder de partout. Donc des situations comme ça, après coup, très cocasses, mais en même temps, je me dis, mais pourquoi j'ai accepté ça à l'époque? Alors je sais pourquoi, parce que j'avais un certain nombre de peurs, et donc du coup, j'avais peur de ne pas retrouver, j'avais peur de plus être capable, j'avais peur aussi qu'on me reproche d'avoir deux enfants, parce que la situation avait fortement changé entre le avant avoir des enfants et depuis que j'avais des enfants. Même si j'avais eu un super manager sur ma première année espagnole, globalement, les autres années, c'était quand même pas très bien passé avec ce manager qui voulait vraiment me faire quitter l'entreprise. Donc, je m'étais dit, faut pas que je fasse de vagues. Je suis une maman, mais il faut pas que je fasse de vagues. Et c'est vrai qu'en fait, après coup, bah non, je suis une maman, j'ai le droit de m'occuper de mes enfants, j'ai le droit d'allaiter, j'ai le droit de. Et pourquoi j'aurais besoin de m'en cacher auprès de l'entreprise? Mais voilà, ça c'est après coup, maintenant que j'ai un petit peu mûri.
Comme si tu t'excusais d'être maman, quoi.
C'est ça. C'est ça. Et je me souviens même à l'époque, donc quand j'ai intégré cette entreprise-là, donc j'avais 3 quarts d'heure de trajet le matin, 3 quarts d'heure de trajet le retour. On avait pris du coup une nourrice à domicile pour être plus tranquille avec mon mari. Mais la nourrice, elle avait le contrat que jusqu'à 19 h. Donc il fallait que je parte à 18 h.
Ce qui est déjà énorme, en fait, quand tu penses.
Ce qui est déjà énorme, hein, parce que je la prenais donc le matin de 9 h jusqu'à 19 h quand même, donc elle faisait quand même 10 h non-stop. Elle allait chercher le grand au collège, n'importe quoi, à la
Très très
maternelle.
précoce ton fils.
Très très précoce. Et puis je me souviens qu'au bout de quelques semaines, j'ai dit à mon mari, non, mais en fait, je ne peux pas faire tous les soirs partir à 18 h, ce n'est pas possible. Je vais me faire taper sur les doigts par mon manager, etc. Donc, lui avait réintégré, il est aussi dans le secteur du digital, donc il avait lui réintégré une agence. Donc, il m'avait dit, OK, on s'organise. Donc, lui, il partait le mardi et le jeudi à 18 h du boulot, comme ça, moi, je pouvais partir plus tard. Mais du coup, il se prenait des réflexions de collègues parce qu'en agence, on finit jamais avant 20 h. Donc, il avait toujours, même s'il manageait, ses collègues qui lui disaient, bah alors, tu as pris ton après-midi? Voilà. Donc, on s'est organisé comme ça, mais c'est vrai que ça a été une période où je me suis dit, après coup, si je devais la refaire, je ne prendrais pas les mêmes décisions.
Tu ferais quoi différemment?
Bah déjà, je ne me précipiterais pas à prendre un poste, le premier de peur d'eux. Et puis, comme je te dis, si je l'avais pris, j'aurais plus insisté sur mes conditions. Non, je finis mon congé maternité. Une fois fini mon congé maternité, j'intègre dans de meilleures conditions en fait votre entreprise, plutôt que d'accepter les conditions vite, vite, vite. Et puis finalement, après, c'est pareil, hein, quand l'entreprise veut te jeter, elle te jette aussi vite, vite, vite. Et finalement, tes conditions personnelles, elles s'en fichent un peu. Donc,
Et tu étais dans cette boîte-là, du coup, tu y es resté 3 ans.
alors, j'y suis restée effectivement 3 ans jusqu'à l'arrivée de mon
Troisième.
troisième. Donc moi, j'ai toujours voulu une famille nombreuse. Quand j'étais petite, je disais même, j'avais lu à un moment donné le livre des records et j'avais dit à mes parents, oui, il y avait une dame qui avait, je ne sais plus combien d'enfants, enfin 20 ou 30 enfants, enfin je ne sais plus, un nombre
Un truc
énorme.
de fou, hein.
Et j'avais dit à mes parents, oh, c'est trop bien d'avoir une famille nombreuse, je serai dans le livre des records. Mes parents m'avaient dit, mais oui, bien sûr. Bon, donc je voulais en tout cas une famille nombreuse. Après, pas autant, hein, bien sûr, je me suis avec l'âge assagi, je dirais, sur le nombre d'enfants. Mais voilà, j'ai toujours voulu une famille nombreuse et mon mari aussi a toujours voulu. Voilà, donc on était plutôt sur la même longueur d'onde. Et comme c'est vrai que ma deuxième était très très sage. Elle a fait ses nuits tout de suite. Alors je ne sais pas si c'est du coup la situation, parce que je pense que mine de rien, la maman influe quand même. Enfin moi je le vois au niveau de mes enfants, les états dans lesquels j'étais avant mes congés maternité, je trouve influent sur leur caractère. Et ma deuxième, elle est sage comme une image. On la pose à un endroit, on la récupère. 3 heures après, elle est au même endroit, elle n'a pas fait de bêtises, etc. Bon, maintenant avec l'adolescence, ça change un peu parce que voilà, elle suit les copains qui sont eux un petit peu moins sages, mais globalement, ça a été une enfant vraiment très très sage. Et du coup, on s'est dit, bah allez, go, on va mettre le troisième en route puisque comme ça se passe super bien. Bon, avec le troisième, ça n'a pas été la même. Hein, il n'a pas fait ses nuits, il criait tout le temps. Mais il est quand même adorable aujourd'hui. Mais voilà, ça a été plus difficile. Mais en tout cas, j'ai mis assez rapidement, puisqu'ils ont 2 ans et demi d'écart. Donc, assez rapidement, on a mis le troisième en route. Et entre-temps, donc, dans cette entreprise, j'avais monté mon équipe, puisque c'était un recrutement. En fait, l'entreprise basculait du mobile au digital. Donc, ils avaient les compétences mobiles qui, à l'époque, étaient très différentes des compétences digitales, mais ils n'avaient pas les compétences, on va dire, ordinateur. Donc, ils recherchaient quelqu'un pour former, aider. Donc, j'ai monté mon équipe et j'ai recruté une personne qui venait de mon ancienne agence de Performix, avec qui j'avais créé vraiment de très, très belles relations. Et pour laquelle je pensais que c'était une amie très fidèle, je me confiais à elle, elle connaissait mon mari, je connaissais le sien, enfin bon, bref. Et donc, très naturellement, quand je suis partie en congé maternité, c'est à elle que j'ai proposé de récupérer mon poste dans
Le temps du
l'intermédiaire,
congé mat.
le temps du congé mat, en me disant, j'ai eu 2 problèmes, mais là, c'est sûr, avec elle, je lui aurais vraiment, je te dis, je lui aurais confier mes enfants, ma maison, tout avec une confiance aveugle et je serais partie. Et puis en fait, elle a profité de mon congé mat pour monter mon équipe contre moi, pour faire des dossiers au niveau des délégués du personnel, etc. Donc j'ai vu que ça changeait pendant mon congé mat et puis tu sais, tu te dis, non mais tu te fais des films là. Enfin, tu te fais des films parce que ça s'est déjà
Ouais,
mal
t'as
passé.
déjà eu un peu un traumatisme sur le sujet, donc tu dis
C'est ça, donc tu dis, mais non, mais tu te fais tes films et tout ça, machin. Et puis, tu vois quand même que il y a des dossiers qui étaient mis sur le partage, ils y sont plus, qu'au début, elle t'appelait tous les jours pour te demander de l'info, puis après, elle t'appelle plus. Quand tu lui demandes comment ça se passe, elle te répond par onomatopée, elle te donne le minimum d'infos. Enfin, tu
tu
sais,
sens
tu
que le
veux
vent
pas
tourne.
écouter ton instinct, tu veux pas écouter ton instinct en te disant, il y a un truc qui se passe et c'est pas normal. En te disant, tu te fais des films, tu es complètement paranoïaque, ma pauvre fille, ça ne te va pas le congé mat. Et puis en fait, donc juste avant de retourner en entreprise, donc je demande un point avec ma directrice des ressources humaines, on déjeune ensemble, tout se passe bien, puis elle finit par me dire à la fin, elle me dit, écoute, on n'a rien contre toi, mais voilà tout ce qui s'est tramé pendant ton congé mat. Le DG, parce que moi j'étais rattachée directement au DG, c'était une petite structure en fait dans un grand groupe. Elle me dit, le DG veut pas monter au créneau, voilà, il préfère faire l'autruche, etc. Elle me dit, du coup, on voit très bien ce qui se passe, mais voilà, on veut pas aller au conflit, on veut pas que
Pas
derrière
faire de
ça fasse,
vagues. Ouais.
voilà, on veut pas faire de vagues, on veut pas que ça fasse effet boule de neige, etc. Donc on te propose un autre poste. Mais donc quand je lui demande l'intérieur du poste, il n'y a plus de management, elle ne sait pas trop ce qu'elle va me donner à faire, etc. Donc là, je lui dis, écoute, tu sais très bien que moi, il faut que ça bouge. Un placard, c'est pas fait pour moi. Donc écoute, on va pas passer, on va pas tergiverser. Négocions mon départ, je pars. Et voilà, en fait, parce que j'ai pas envie de revenir non plus dans une structure où il s'est passé tellement de choses, en fait, derrière mon dos pour finalement piquer mon poste, que derrière, enfin, moi, je ne vais pas me sentir bien, les autres se sont ligués contre moi, etc. Et j'ai vraiment pas envie. Donc, j'ai négocié, en fait, on a négocié mon départ. Donc, pour le coup, la direction a été très, très correcte, même si je trouve que pour un directeur, là, c'était un directeur général, ben, quand il y a un problème, on le gère. Enfin, pour moi, en tout cas, je le gère, je ne fais pas l'autruche en disant ça va passer, la tempête de sable va passer, c'est bon. Mais voilà, donc j'ai quitté l'entreprise, je ne suis pas revenue après mon congé mat dans l'entreprise. Et là, je me suis dit, comme c'était une start-up au sein d'un grand groupe, je me suis dit, bon, ben, je vais changer, je vais prendre une entreprise plus traditionnelle, ça ira mieux.
Et là, cette fameuse personne, t'as eu l'occasion de la recroiser, de reparler avec elle?
Pas du tout, pas du tout. Alors, vraiment, cette personne-là, c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais parce que je lui avais quand même demandé d'être la marraine de mon troisième.
Ah
Donc,
ouais.
oui, donc c'est
Ouais.
vraiment pas, enfin, on ne demande pas ça à n'importe qui, hein.
Ouais.
Voilà, donc non, non, je ne l'ai jamais
Et elle avait
recroisée.
accepté?
Elle avait accepté dans un premier temps. Et ensuite, elle m'a appelée bah, juste avant que je voie en fait ma directrice en me disant non, mais en fait, je me sens pas, j'ai jamais été marraine, je sais pas comment. Bon, des fausses excuses, quoi. Et là, pareil, cette fois-là, je me suis dit, mais enfin, on est tous, enfin, quand on devient marraine pour la première fois ou parrain, bah, on devient pour la première fois,
Et
quoi.
puis
Donc.
c'est pas voilà être marraine c'est pas la plus grosse enfin oui évidemment que tu as une responsabilité mais c'est pas non plus on ne te demande pas de la gérer tous les jours enfin
Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc non, je ne l'ai jamais revue. Elle n'a jamais cherché à reprendre contact. J'ai jamais cherché à reprendre contact non plus parce que je pense que si je reprenais contact, je pourrais être quand même assez cinglante. Et donc, il vaut mieux pas voilà, que je rediscute avec elle parce que moi, je lui ai fait confiance à 100% et ça a été vraiment une grosse, grosse trahison pour moi. Un
Tu
vrai
m'étonnes.
couteau, un vrai poignard dans le dos. On pense que c'est notre amie et en fait, non, la première occasion, elle en profite pour voilà, pour nous planter le couteau dans le dos. Et ça, pour moi, finalement, je me dis, c'est pas de l'amitié en fait. Et
Non.
après coup, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais tu sais, des personnes, par exemple, des stagiaires au sein de l'équipe, qui m'ont dit, mais tu sais, elle a jamais été. En fait, elle se projetait sur toi comme si tu étais Dieu sur terre. En fait, ça n'a jamais été une amitié. Tu
C'était
vois, elle
pas
voulait
égal à
rebondir.
égal, quoi. Ouais.
Et à tel point que d'ailleurs, alors moi, le prénom que j'aurais voulu donner à mes filles, mais que je n'ai jamais pu parce que mon mari n'aimait pas, donc c'est Sarah. Moi, j'adore ce prénom. Et à tel point qu'elle a eu 2 ou 3 ans après, en fait, une petite fille et que j'ai appris qu'elle l'avait appelée Sarah. Donc, sur tous les prénoms du monde, pour les petites filles, je veux dire, je ne sais pas combien il y a de prénoms, il a fallu qu'elle choisisse le prénom sur lequel je lui avais dit, j'espère que si c'est une fille, avant de savoir que c'est un garçon, mon troisième, cette fois-ci, mon mari acceptera que je l'appelle Sarah, parce qu'on avait eu énormément de discussions sur ça. Je me dis, c'est quand même. Enfin,
Bah, tu dis qu'elle a peut-être un petit problème, si.
ben, je me dis, voilà, il y a quelque chose derrière qui va pas sur, voilà, sur tous les prénoms possibles et inimaginables. Il a fallu qu'elle appelle sa fille avec le prénom qui était. Le prénom que je voulais donner, moi, à mes filles, mais depuis que j'ai, je sais pas, 15-16 ans, enfin, ça a toujours été ce prénom-là.
Et là, comment du coup, bon, forcément, encore une nouvelle douche froide, comment ton entourage il t'accompagne dans cette période-là?
J'ai l'avantage d'avoir un mari en or qui est toujours, alors, qui arrive toujours à me rebooster quand je suis démotivée, qui arrive toujours à trouver les bons mots quand ça va pas. Donc, c'est vrai que l'entourage est hyper important dans ces moments-là parce que j'étais quand même pas loin de craquer. Parce que, bon, perdre son boulot, c'est une chose, mais perdre son boulot à cause d'une soi-disant amie, là, c'est un double. Un double problème, en fait.
La double
C'est-à-dire
peine,
que.
ouais.
Ouais, on se dit, bah, en fait, j'ai été trahie, quoi. Et je pense que la trahison, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui, surtout quand on met sa confiance dans les gens. Moi, je me suis confiée, quand je me disputais avec mon mari, je lui racontais, on en discutait. Enfin, je lui ai vraiment confié des choses hyper personnelles. Et je me dis, en fait, elle s'en est servie contre moi. Et je trouve ça, en fait, aujourd'hui, après coup, je trouve ça lamentable. Mais à l'époque, j'étais dans un état psy, déplorable en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible.
T'as fait comment du coup pour remonter la pente?
Écoute, j'ai eu la chance, donc comme je te dis, d'avoir donc un mari qui voilà qui me supporte en toute occasion, comme on peut dire, qui est toujours derrière moi, qui est mon premier supporter hein, d'ailleurs au sens propre du terme. J'ai la chance aussi d'avoir pu en parler beaucoup avec mon papa qui est très présent au quotidien dans ma vie et qui du coup tous les deux ont réussi à me faire un peu relativiser. Et puis après, ben, la vie reprend quand même le dessus. J'ai une famille, j'ai des enfants, je retrouve un boulot. Enfin, je veux dire, on ne peut pas rester apitoyé sur son sort ad vitam aeternam. Il faut à un moment donné rebondir et y aller. Donc, je dirais, ça s'est fait petit à petit. Mais c'est vrai que ça, c'est une blessure que j'aurais à vie parce que voilà, pour moi, c'était vraiment une amie. En fait, ben, pour elle, non, je n'étais pas une amie pour elle.
Et donc là, t'as accouché donc de ton troisième enfant. Là, tu recherches un job tout de suite ou tu te dis que t'en profites un peu pour te reposer?
Non, je recherche un job tout de suite. Alors, je suis hyper active, c'est ce que me dit en tout cas mon mari. Donc, voilà, c'est vrai que j'adorerais rester des semaines et des semaines dans un hamac à ne rien faire, à siroter. Puis mon mari me dit non, mais au bout de 2 heures, tu t'ennuierais, donc arrête de dire ça. Donc, en fait, j'étais déjà… en parallèle, j'avais créé en fait une petite activité de consulting, mais vraiment très, très petite, parce que quand j'étais rentrée en France, j'avais des anciens clients de Performix France, en fait, qui étaient revenus vers moi en me disant « Écoute, Nat, t'es rentrée en France. » Et puis, ça fait déjà plusieurs account managers qu'on a au sein de Performix, où on a même changé d'agence, etc. Ça ne se passe pas bien et on voudrait travailler avec toi. Et donc, au début, je me suis dit « Bah oui, mais moi, j'ai un CDI, etc. » Non, mais on s'en fiche. On sait que toi, de toute façon, le travail sera fait le soir, le week-end, entre midi et deux, etc. On sait que si on te donne les choses, ça sera fait en temps et en heure. On n'aura pas besoin de se préoccuper. Donc, du coup, j'avais accepté de travailler pour ce client qui est devenu mon premier client et qui m'a permis de créer mon statut d'auto-entreprise. Et donc, j'avais comme ça deux, trois petits clients pour lesquels je travaillais qui ne me demandaient pas beaucoup d'heures, mais ça me permettait au début de me dire j'ai un petit revenu complémentaire et c'est chouette et ça me change. Parce que ce que j'aimais bien chez l'agence, c'était d'avoir des clients très différents. Je bossais aussi bien pour la mode que pour les voitures, que pour l'assurance. Enfin, je changeais complètement d'univers. Et c'est vrai que chez l'annonceur, on est toujours dans le même
sujet. Sur le même sujet, ouais.
Voilà, c'est toujours le même sujet, c'est toujours les mêmes problématiques, on ne change pas. Donc, du coup, j'avais gardé, enfin, j'avais accepté, puis j'avais gardé. Et en fait, j'étais en pourparlers avec une personne pour laquelle j'avais fait, en fait, une mission rapide de 2 mois de consulting et qui venait d'intégrer une entreprise en tant que directrice marketing et qui recherchait, en fait, une directrice du digital. Donc, en fait, très rapidement, elle me dit « Non, mais en fait, c'est toi que je veux dans les équipes, etc. » Donc, finalement, j'ai intégré assez rapidement cette entreprise en me disant « Bah, allez, go, pourquoi pas. C'est une entreprise traditionnelle. Peut-être que ça se passera mieux qu'en agence. Peut-être que ça se passera mieux que chez un annonceur, je dirais, type start-up, parce qu'il y avait quand même les fonds derrière d'un gros groupe. Mais je me suis dit « Peut-être qu'en changeant de structure d'entreprise, je vais finir par trouver la bonne entreprise. » Et puis cette directrice marketing, elle avait quand même 2 enfants, donc 2 grands-enfants, mais qui étaient niveau bac, études supérieures, donc je me disais elle connaît quand même le statut de maman avec des jeunes enfants, etc. Donc j'intègre l'entreprise, tout se passe super bien, les résultats d'école, enfin tout est au rendez-vous, tous les je dirais tu vois, tous les critères sont checkés en vert, quoi.
Tac, tac, tous les tac. KPI, c'est bon.
Nickel. L'équipe au top. J'ai une équipe vraiment, des collègues qui sont vraiment super investis, motivés. Enfin, ça se passe super bien. Avec cette manager, ça se passe super bien, pas de problème. Avec mes autres collègues, ça se passe super bien. Enfin, vraiment, tout était au vert.
Le job te plaît ?
Le job me plaît. Il y a plein de challenges à faire parce que c'est ce qu'on appelle une vieille entreprise, donc elle n'était pas encore digitalisée, elle était en train de se digitaliser, donc il y a tout à faire. Moi, je l'adore quand je suis dans des jobs où je dois tout faire, quoi. C'est le challenge, je dois tout créer de zéro. Et du coup, tu peux dire les résultats, c'est grâce à moi, c'est pas parce que je reprends quelque chose qui tourne déjà et je continue, voilà, sans trop me fouler. Donc, tout est bien. Et un an après, ouais, c'est ça, pile poil un an après, j'apprends que je suis enceinte.
Quatrième.
Alors, du coup, moi, j'avais toujours dit à mon mari, ça sera soit 2, soit 4, mais moi, je ne veux pas 3, parce que, enfin, 3 ou 5, hein, je veux toujours un chiffre pair, parce que je trouve que dans les chiffres impairs, dans les fratries impaires, il y en a toujours un qui est à part. Ça peut ne pas être le même, hein, mais voilà, je trouve que, alors que dans les fratries pairs, du coup, ils jouent toujours par deux. Un peu, tu sais, comme les copains, ils sont toujours par deux. Les trios, ça fonctionne moins bien, en fait. Donc, j'avais toujours dit à mon mari, de toute façon, ça sera 2 ou 4, bon, ou alors après 6, mais il faut changer de voiture, il faut tout changer. Voilà, ou 20 pour être dans le livre des records, mais voilà, ça sera un nombre pair. Donc, de toute façon, on savait qu'à partir du moment où on avait fait le troisième, il y aurait un quatrième qui allait suivre. Mais moi, j'avais dit à mon mari, on attend quoi, 4 ans d'écart, c'est pas mal, c'est ce qu'on avait entre mon premier et ma deuxième, et ça me laisse le temps de faire mon trou, etc. Et puis là, eh ben, il s'avère que malgré la pilule, ben, je tombe enceinte, quoi. Et le jour où je la prends, je me souviendrai, et je crois que mon mari aussi, je me souviens, la veille au soir, j'avais dit à mon mari, j'ai du retard, alors moi, je suis hyper bien réglée, enfin, voilà, donc, j'avais dit, j'ai quand même du retard, c'est quand même, voilà, donc, j'avais été chercher un test à la pharmacie, puis j'avais dit, je le ferai le lendemain matin, donc, le lendemain matin, moi, je me levais plutôt pour pouvoir préparer le petit-déj, etc., et puis, mon mari, lui, comme il commence en agence, il se levait toujours, je ne sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure après, enfin, voilà, un petit peu plus tard. Et là, je fais le test, et puis, J'attends, et puis j'attends le nombre, je ne sais plus, 30 secondes, là où le nombre, et puis je vois rien, je dis, bon, fausse alerte. Et puis, je vais dans la cuisine. Je me dis, bon, bah, je vais leur préparer le petit déjeuner. Donc, je pose à côté de l'évier. Je me lave les mains. Je commence à tout préparer. Et puis, j'oublie le lait. Donc, je retourne dans le frigo. Et puis là, je vois le test. Et je vois, en fait, la barre. Je me dis, c'est une blague. Donc, je reprends le truc.
Ouais, tu relis la notice, de toute façon, comme on a tous fait, tu relis deux fois en mode, mais
C'est
vraiment?
ça, c'est ça. Je me dis, attends, 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 mais il s'est passé un truc là. Il y avait 2 minutes, c'était pas. Maintenant, c'est qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc là, panique à bâbord. Je me dis, au cas où, je vais aller dans la chambre. Donc j'arrive, mais comme une furie dans la chambre en me disant, peut-être qu'il est réveillé, on ne sait jamais, qu'il s'est pas levé. J'ouvre la porte, branle-bas le combat. J'arrive, il était. Oh, je me dis, bon, je referme comme je peux. Je repars, là, les émotions à 300 parce que je me dis, ça y est, je vais encore reperdre mon job. Je viens d'arriver, ça fait un an, tout se passe bien, je vais encore reperdre mon job. Donc là, il arrive sur les entrefaites, tu sais, et puis il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il voit ma tête, mais déconfite. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis lui, il avait oublié, hein, bien sûr, que j'étais passée à la pharmacie, tout ça, tout ça. Il avait. C'était parti aux oubliettes. Et donc là, je me mets à pleurer. Et je lui dis, je suis enceinte. Donc là, il me prend dans ses bras et tout ça. Il me dit, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, machin. Je lui dis, mais c'était pas prévu maintenant, mais pourquoi je suis enceinte maintenant, etc., etc. Donc là, c'est le branle-bas combat et je finis par lui sortir. Je lui dis, mais ça y est, je vais encore perdre mon job. Alors que j'adore mes collègues, que j'adore mes missions, que j'adore tout, ça y est, c'est encore parti, etc. Donc, les premières semaines ont été très, très, très difficiles, à tel point qu'à un moment donné, il m'a quand même fait réagir parce qu'il m'a dit, mais au bout d'un certain temps où ça n'allait vraiment pas, donc je rentrais tous les soirs dépitée, voilà. Et il me dit, mais tu veux avorter en fait? Un soir, il me sort ça. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est complètement délirant. Ça veut dire qu'en fait, l'état d'esprit dans lequel je suis est tellement négatif que ton mari te demande si tu veux avorter. Alors qu'en fait, tu as toujours voulu une famille nombreuse, tu as toujours. Et tout ça, quelque part, pour un job. Et en fait, ça m'a fait tilt. Et là, je me suis dit, non, mais enfin, faut remettre les pieds sur terre. C'est quand même plus important d'avoir un enfant, surtout qu'il était, même si elle est arrivée avec de l'avance, cette petite fille, elle était quand même désirée. Donc, par rapport à un job, quoi. Enfin, il faut quand même
Tu te dis, en fait, on
remettre.
rentre dans des schémas de pensée complètement hallucinants.
C'est ça où je me dis, non, mais tu te rends compte qu'il arrive à te demander si tu veux avorter par rapport à ton job. La priorité, c'est quand même la vie par rapport à un boulot. Donc là, ça m'a remis quand même les idées, je dirais, au clair, en me disant, non, mais on arrête tout de suite de, voilà, de quelque part de s'apitoyer, quoi, de se dire. Et donc, voilà, je suis repartie dans une spirale un petit peu plus positive, mais toujours, tu sais, avec l'appréhension de te dire, ça va mal se passer. En fait, parce que ça s'est déjà mal passé 3 fois. Alors, on dit souvent jamais 203. Mais là, pour le coup, c'était jamais 304, hein, parce qu'effectivement, ça a fini par mal se passer, même si jusqu'à mon congé mat, donc alors, j'avais l'appréhension de le dire à ma manager, je ne te raconte pas, j'ai retardé au maximum, je crois que j'ai dû l'annoncer à 4 mois et demi, quelque chose
Ouais,
comme
sauf
ça.
qu'en plus, le quatrième, ça devait forcément se voir.
À mes mois, alors j'étais avec des affaires hyper amples. En plus, comme je te dis, je prends vraiment 20 kilos à chaque grossesse. Donc, j'avais déjà pris à 4 mois, j'avais dû prendre quasi 8 kilos. Donc, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle grossit à vue d'œil. Donc, j'étais avec des affaires amples, etc. Et je l'ai dit hyper tard. Et tous les jours, je me disais, bon, aujourd'hui, je lui annonce. Et tous les jours, j'avais un prétexte, hein, pour pas lui annoncer. Non, mais je ne l'ai pas vue. Non, mais je n'étais pas en one-to-one avec elle. Non, mais j'avais toujours un prétexte. Donc, j'ai reculé, reculé. Puis, à un moment donné, je me suis dit quand même, je vais arriver en congé mat.
En fait, je t'ai pas dit, je suis en congé mat ce soir.
C'est un peu ça. Donc, mais tu sais, l'appréhension, la boule au ventre, quoi. Le fait de te dire, mais comment elle va le prendre? Même si pourtant, c'était une maman, etc. Comment elle va prendre? Et puis, comment le PDG va le prendre? Et puis, comment... Enfin, voilà. Donc... je l'ai annoncé. Pour le coup, bien évidemment, on te félicite, hein, bravo, c'est super, machin, nanana. Enfin, voilà, tu as toujours les congratulations, comme on dit en anglais, toutes les félicitations. Et puis là, tu te dis, bon, ben, maintenant, il va falloir organiser l'équipe.
Parce que du coup, quand tu as 4 enfants, c'est combien de temps le congé mat?
C'est 6 mois de congé mat. Sachant qu'en plus, ça, j'étais dans une structure qui avait 10 semaines de vacances à l'année. Donc, ça voulait dire, en fait, si tu veux, qu'il fallait quand même que je pose des vacances. Enfin, du coup, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai été absente en tout 8 mois pour rattraper les congés que tu prends pas pendant ton congé mat, mais qui se cumulent parce qu'après, tu t'es t'es tout le temps absente en fait. Donc il vaut mieux être absente et
Ouais,
revenir.
à bon
J'étais
coup et
absente
ouais.
en 8 mois. Et donc là, tout se passe bien quand même jusqu'à mon congé mat. Et puis pour le coup, cette grossesse se passe bien, ce qui n'avait pas été le cas pour toutes mes grossesses, mais cette grossesse se passe super bien, la quatrième, à tel point que je dis, je prends pas mon congé non, comment il s'appelle le.
Oui, le truc avant,
Oui,
le
patho, là, le
ouais,
congé
congé
pathologique.
pathologique.
Voilà. Donc je dis, je prends pas mon congé pathologique pour vraiment montrer que je suis hyper motivée, que voilà, ça changera rien, que je suis là au front, etc. Et je décale même, parce que mon gynéco me dit oui, vous pouvez décaler, pas de souci, je décale même le début de mon congé maternité de 15 jours. Tu vois, pour dire vraiment, je montre
Ouais, je
que
suis là,
voilà,
quoi. Ouais.
je suis là, j'assure le poste jusqu'au bout, etc. Et puis, donc, je commence à réfléchir à comment organiser mon équipe. J'avais une équipe à l'époque de 8 personnes quand même. Donc, je me dis, je ne vais pas refaire la même erreur, je ne vais pas donner mon poste à une seule personne. Cette fois-ci, j'ai bien compris, même si ce n'est pas une amie. J'ai bien compris, donc on m'y reprendra pas. Donc je réfléchis, etc. J'essaye de négocier avec ma manager de prendre une consultante extérieure ou un CDD. Je me dis, comme ça, au moins, la consultante a fait sa mission. Ensuite, je reprends mon poste ou le CDD. Elle me dit, non, 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 on n'a pas le budget, c'est pas possible, etc. Donc je me dis, bon, comment je peux faire quand je. Et dans l'équipe, j'avais 2 seniors. Donc je me dis, je réfléchis, puis je me dis, je vais répartir mes missions sur ces 2 seniors-là, parce qu'après, j'avais que des juniors, donc c'était plus complexe. Donc, je me dis, je vais répartir donc la moitié de mon poste, grosso modo, sur une personne et l'autre moitié de mon poste sur l'autre personne. Comme ça, même si on a une qui essaie de me piquer mon poste, ce sera que la moitié du poste. Je me dis quand même, il faudrait que j'ai vraiment pas de chance pour que les deux soient pas honnêtes. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a quand même plus de personnes honnêtes que de personnes malhonnêtes, j'espère, dans notre monde encore. Enfin, peut-être que je vis au monde des bisounours, mais voilà. Et donc j'annonce, donc je le présente à ma manager qui me dit OK, je l'annonce à ces 2 personnes, donc qui étaient 2 femmes, hein, et l'une des deux me dit à la fin, Nat, est-ce que je peux te parler? Et donc je lui dis oui, pas de souci. Puis en fait, elle me dit, bah, moi aussi, je suis enceinte. Donc elle allait me l'annoncer dans les 15 jours, elle avait 1 mois et demi d'écart avec moi en fait. Donc elle allait me l'annoncer, mais elle était à quasi 3 mois, et moi je devais être à 4 mois et demi ou quelque chose comme ça. Donc elle me dit, de toute façon, c'est mort, en fait, je vais partir en congé mat. C'était son troisième aussi, donc elle était aussi sur un congé un peu plus long, etc. Donc elle me dit, de toute façon, je ne peux pas prendre le poste, je ne peux pas prendre la moitié de ton poste, ce n'est pas possible. Et là, je me dis, bon, ben, je n'ai pas le choix, en fait. Je vais être obligée de mettre mon poste encore sur une seule et
Personne.
même personne. Comment je fais alors? Quand même, essayer de trouver des solutions, de proposer à ma manager qui m'a tout refusé. Donc j'ai dit, bon, ben, je mets tout mon poste sur cette personne-là. Et donc, je pars en congé maternité. Voilà. Pendant le congé, ça se passe plutôt bien. J'ai plutôt des nouvelles régulièrement. Soit elle m'appelle, donc soit ma manager m'appelle, soit ma N-1 m'appelle. Enfin, franchement, ça se passe plutôt bien. Et puis, à la fin de mon congé maternité, peut-être dans le mois qui restait, quelque chose comme ça, je suis appelée donc par ma N+2. Donc, tu vois, pas ma manager, mais la manager de ma manager, qui me dit, Nathalie, il y a un poste qui s'ouvre à l'international de responsable e-commerce, on t'y verrait vachement bien, ce serait super que tu postules à ce poste, etc. Donc elle me dit, je t'envoie la description, elle me dit, je ne voulais pas te déranger pendant ton congé mat, mais c'est vraiment une super opportunité et tout. Donc elle m'envoie le descriptif du poste, elle m'envoie tout, et puis vraiment toutes les deux, donc ma N+1 et donc la manager me poussent toutes les deux en fait à postuler. Alors au début, je ne suis pas super motivée parce que je me dis, ouais, mais j'adore mon équipe. Là, bon,
Ouais,
je vais
puis tu
faire.
reviens de congé mat, t'as envie d'avoir un environnement plutôt cocoon.
Oui, puis je me suis dit, j'ai quand même tout développé. Ça veut dire que là, il va falloir. Bon, j'adore tout développer, mais là, j'avais envie un peu de me poser. Tu vois, j'avais envie de dire, je veux aussi profiter des résultats que j'ai, ça fait quand même, voilà, que j'ai mis en place. En plus, on avait une super visibilité à l'international parce que pendant mon congé mat, on avait eu de tellement bons résultats qu'on avait été élu équipe e-commerce de l'année au niveau du monde. Tu vois, donc on avait une visibilité pour la France vraiment super importante. Donc je me dis, bon, donc je réfléchis et tout. Puis mon mari me dit, écoute, ça a l'air d'être une super opportunité. Donc de toute façon, postule, ça t'engage à rien. Après, tu peux toujours faire machine arrière. Et puis tu vois, en fait, tu vois avec. Donc, je dis, bon, OK, sachant que je n'avais pas parlé anglais depuis un petit bout de temps. Ma manager me dit, pas de souci, je te coach en anglais, machin. Donc, elle m'appelle, on fait des sortes d'interviews en anglais, tu vois, pour que je me remette un peu dans le bain. Et puis, je fais l'entretien avec la personne qui, grosso modo, me fait comprendre que de toute façon, elle a déjà fait son choix et qu'elle veut recruter une personne à l'extérieur de la boîte, mais qu'elle est obligée de mettre l'annonce en fait
En interne.
en interne parce que voilà. Donc, bon, du coup, je me dis l'un dans l'autre, c'est très bien, puisque de toute façon, je n'étais pas hyper motivée. Enfin, j'étais motivée, mais tu sais, tu as quand même quelque chose qui te dit. Tu vois, quelque part, tu te dis, ouais, c'est chouette qu'on te propose ça. Et puis quelque part, tu te dis, mais moi, il y avait plein de choses que j'aimais bien. Donc, finalement, tu te dis, bah, c'est
C'est
bien.
pas grave, ouais. Tu vois du lait, ouais.
Voilà, comme ça, j'ai quand même montré ma motivation, parce que je n'ai pas dit non. Et puis, finalement, c'est elle qui dit non pour moi, donc c'est pas mal. Donc, la fin de mon congé maternité arrive. Du coup, prête à rempiler, à dire, je suis hyper motivée, 350%, je vais montrer que je suis toujours la Nathalie d'avant mon congé maternité, etc. Et première journée, j'arrive, tu sais, quand même un petit peu avec l'angoisse, où tu te dis, bon, ça va bien se passer, mais on ne sait jamais. Mais ça va bien se passer, mais on ne sait jamais. Et puis là, tu as un pot d'arrivée qui t'attend avec tous les collègues avec lesquels tu as bossé, machin. Tu vas manger, ta manager te dit, on va manger toutes les deux, comme ça je te mets au point sur tous les sujets en cours, etc.
Et tu dis
On
cool.
dit,
Waouh, j'ai
super!
jamais eu ça.
C'est ça, je fais. Mais si j'avais su, j'aurais pas prévu mes autres enfants. Ils seraient arrivés comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Finalement, ça sert à rien de prévoir. Tu vois, première journée, t'es comme ça, t'es dans l'extase. Et puis, du coup, mon mari qui m'appelle quand même, qui me dit, alors, comment ça se passe? Parce que lui aussi, il était inquiet pour moi.
Tu
Je dis,
m'étonnes.
franchement, je lui dis, nickel chrome. Je lui dis, si j'avais su, on n'aurait prévu aucun des trois premiers, parce que vraiment, super. Bon, ça, c'était la première journée. Après, j'ai vite déchanté. Et donc, bon, voilà, cette première journée, vraiment géniale. Je me dis, super, je reprends mon poste, mes trucs. Et puis, en fait, au fur et à mesure, tu vois, alors, le temps que je reprenne, mais les premières semaines, j'avais des avantages que ma manager, avant mon congé matin, j'avais des avantages que ma manager commence à remettre en question. Par exemple, à l'époque, je travaillais 2 jours par semaine en télétravail. Et là, elle me dit, non, 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 ça ne va plus être possible. Alors, les périmètres n'avaient pas changé, l'équipe n'avait pas changé, enfin, tout était isopérimètre avant-après, tu vois. Donc, ça commence par, on va t'enlever une journée de télétravail parce que ce n'est pas possible les deux. Quand tu lui dis pourquoi? Pas de justification. Puis après, elle te dit, je vais être dans toutes tes réunions. Bah, pourquoi? Tu n'étais pas dans toutes mes réunions précédentes. Ah non, non, mais maintenant, je veux changer, je vais être dans toutes tes réunions. Donc, tu dis, ok, pourquoi? Elle t'enlève de réunions importantes et elle continue à mettre ta N-1. Comme si, en fait, tu n'étais pas revenu de congé maternité. Enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Alors, pareil, au début, tu te dis, je me fais des films. Et puis, pareil, en fait, le jour où je suis revenue, où on a eu le pot, j'ai une collègue, donc à la fin du pot, j'ai une collègue qui me dit, non, mais c'est abusé, le discours de la manager et tout. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce qu'en fait, elle a listé tout ce qu'ils avaient fait. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai pas fait gaffe, je fais, ah, mais non, mais. En fait, elle avait listé tout ce qu'elle avait fait. Elle et l'équipe en mon absence, en disant on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et à la fin, elle m'avait dit, et toi, t'as fait quoi? Et du genre, il y a une collègue qui se dit, bah, elle a quand même mis au monde un enfant, c'est pas rien. Mais du genre, t'as fait quoi, quoi? T'étais dans un Mac. Alors, sur le coup, je me suis dit, ben non, mais c'est une mauvaise communication, ça arrive, enfin voilà. Et puis après coup, je me dis, non, en fait,
C'était
c'était
pas
pas
du
du tout
tout ouais.
intentionnel. Du genre, toi, t'as fait quoi? T'étais en vacances, en fait, hein, pendant 8 mois, voilà. Donc, petit à petit, tu vois, il y a plein de choses qui se
Oh,
mettent.
t'as joué à la poupée.
C'est ça, exactement. Une poupée qu'on range dans le placard, hein, bien sûr. Je vais avoir les assistantes sociales bientôt sur le dos pour ce que je dis. Donc voilà. Et il y a plein de choses comme ça qui commencent à se mettre en place. Et puis, alors moi, je travaillais, j'étais dans une équipe, donc l'équipe digitale, mais je travaillais en transverse pour toutes les business units de la boîte. Et j'ai une business unit avec qui je m'entendais vraiment, la direction, je m'entendais super bien et qui me dit, Nat, on est vraiment content que tu sois revenu parce que depuis que tu es partie, en fait, les résultats donc des campagnes Google Ads ont fortement chuté. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai 20 ans d'expérience sur Google Ads, donc c'est quand même un levier que je maîtrise assez bien. Qui me dit, est-ce que tu peux regarder rapidement pour refaire partir les résultats à la hausse, etc. Donc, je lui dis, bah, écoute, tel jour, je suis en télétravail, puisque j'avais encore mon télétravail. Donc, je lui dis, j'aurai moins de réunions, je vais me bloquer, en fait, l'agenda. Et comme ça, je me mets sur les campagnes, je regarde ce qui a été fait, je vois. Et effectivement, je passe, je sais pas, peut-être une demi-journée, tu vois, à faire des optimisations, machin, etc. Et les résultats décollent. Mais décollent, mais du jour au lendemain, à tel point que le lundi suivant, enfin, la semaine suivante, j'ai le DAF qui envoie un mail en disant, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais eu autant de volume de vente et on n'a jamais eu un retour sur investissement aussi intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, un peu, je dirais naïve, je dis, bah, j'ai fait des optimisations. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai fait des optimisations. Et là, ça a été le branle-bas combat, c'est-à-dire que ma manager a convoqué donc ma N-1, celle qui m'avait remplacée, plus la personne qui gérait les campagnes Google Ads, mais qui était junior à l'époque, hein, que j'avais formée juste avant de partir en congé mat, qui venait d'arriver, voilà, qui avait une petite expérience, mais rien de très très long. Elle les a convoqués tous les deux et elle leur a demandé de faire un audit sur mon travail pour démontrer que les optimisations que j'avais faites n'avaient rien à voir avec les bons résultats obtenus. Donc, bien sûr, ma N-1 ne me dit rien. Lui, le petit junior, m'appelle un peu mal à l'aise en me disant on m'a demandé ça, je ne suis pas super à l'aise, machin. Donc, je lui dis oui, effectivement, c'est un petit peu bizarre. Et il me dit d'ailleurs, il y a une réunion tel jour, telle heure, etc. Donc, mais t'es pas convoqué. Enfin, voilà, on est convoqué,
T'es pas
la N-1.
invité.
T'es pas invité, voilà, t'es pas invité. Donc, je me dis, bah écoute, pas de souci. Je vais jouer la blonde comme je sais bien faire, tu vois, avec la couleur de cheveux, ça aide. Et je me dis, je vais me pointer à la réunion. C'était le matin à 10 h, tu vois, je me dis, je vais me pointer à la réunion, comme je suis souvent, pas dans les réunions, mais tu sais, je passais souvent dans les bureaux pour dire bonjour le matin. Je dis, je vais arriver et je vais dire bonjour. Et là, je vais dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est exactement ce que je fais le jour J, en fait. Je me pointe vers 10 h, ils étaient déjà, ou 10 h 05, ils étaient déjà tous les trois en réunion. Et puis, en plus, ma manager, elle avait son écran d'ordinateur face à la porte. Alors, pour le coup, et donc, je rentre, je dis bonjour, et puis je dis, ben, vous êtes en train de regarder les campagnes Google Ads? Ben, je lui dis donc, je voudrais participer parce que c'est quand même moi qui fais les optimisations, etc. Et là, elle commence, ma manager, à s'énerver, à me gueuler dessus en disant que j'ai rien à faire à la réunion, que c'est une réunion qui ne me regarde pas et que je dois sortir. Donc là, pareil, tu te dis, qu'est-ce qui est en train de se tramer derrière mon dos à nouveau? Tu vois, au début, tu ne comprends pas qu'il y a tout un truc où elle essaye de démontrer que, etc. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se trame, quoi? Donc là, j'appelle mon mari en panique totale. Je lui dis, voilà ce qui se trame. Il me dit, écoute, il me dit, au vu de tes expériences précédentes, tu fais un mail tout de suite à elle, au manager de la BU concernée, parce que les managers de la BU sont même pas au courant en fait de cette réunion, et à ta RH pour tout de suite,
Ouais,
tu vois,
tu te cales le
cadrer le
truc.
truc et qu'il y a une
J'ai
trace
une
écrite,
trace, ouais. Et surtout
mais
dans ces boîtes-là.
voilà, qu'il y a une trace écrite. Donc je fais un mail, alors je dis, mais je sais pas quoi marquer, mais je sais pas quoi marquer. Alors il me dit, attends, on va le faire ensemble, va à ton bureau, assieds-toi.
Respire un bon coup.
C'est ça. Et donc, en fait, quasi, c'est lui qui me l'a dicté, si tu veux. Enfin, il m'a aidé à le faire et tout ça. Il m'a dit, non, mais attends, là, tu dis ça, là, machin. Donc, je lui envoie, en fait, le mail. Et puis, franchement, j'étais dans un état, tu sais, d'incompréhension et de stress, etc. Où il me dit, je te prends quand même rendez-vous avec le médecin parce que je voudrais pas que, tu vois, ça part en vrille, quoi. Et le médecin, le soir, alors j'étais à je ne sais plus combien de tensions et tout ça, il me dit, écoutez, Madame Grimaud, je vous arrête. Hein. Je vous arrête pour 3 semaines, là, c'est pas possible. En plus, je lui racontais, j'étais en pleurs, etc. Donc, il me dit, non, là, je vous arrête, c'est pas possible. Il faut que vous vous reposiez, il faut que vous preniez de la distance sur ce qui se passe, etc. Et donc, le lendemain, je ne sais plus, je leur annonce que donc, je suis arrêtée pendant 3 semaines. Et tu sais, tu as quand même une part de culpabilité quand tu es arrêté, où tu te dis, bah ouais, mais quand même, tu es payé par l'entreprise, et puis l'entreprise a besoin de toi, et puis tu as des missions à faire, etc. Et puis en plus, tu sais, j'aimais beaucoup, enfin d'ailleurs, je les aime toujours beaucoup, parce que j'ai toujours des relations avec eux, mais les directeurs de cette BU-là, quoi, ils étaient vraiment super top et tout. Et je me dis, punaise, il faut quand même que je surveille leur campagne et tout. Puis là, mon mari, il me dit non. Il me dit non. On t'a reproché, en fait, enfin, on essaye de démontrer que le travail que tu as fait, finalement, ce n'est pas dû à ton travail. Il dit justement, pendant 3 semaines, tu fais rien, tu laisses la campagne se planter. Et effectivement, les résultats commencent à chuter. Alors moi, je regarde tous les jours, tu sais. Je me dis, non, je fais rien, non, je fais rien. Mais je regarde.
Ah,
Et puis
tu te
là,
fais
les
violence,
résultats.
tu te fais violence pour pas faire.
Je me fais violence parce qu'en plus, je suis quelqu'un d'hyper investi dans mon boulot, etc. Donc, je me fais, tu vois, je suis vraiment là en disant non, il ne faut pas, vraiment pas que je touche, il ne faut vraiment pas que j'aie de contact même avec le junior pour lui dire fais ci, fais ça, machin. Je suis en arrêt maladie. Et puis, les résultats chutent, les résultats chutent, les résultats chutent. Et puis, je reviens donc 3 semaines après. Et là, je me dis, je mets en place toutes les optis. Et les résultats remontent. Donc, si tu veux, ça commence à devenir compliqué pour ma manager de dire que c'est par hasard, que ça n'a rien à voir avec les optimisations, que c'est par hasard. Donc là, elle change de tactique et elle dit en fait à tout le monde que comme je suis une experte Google Ads, j'ai caché volontairement des optimisations à mon équipe pour qu'il n'ait pas d'aussi bons résultats que moi. Donc ça, elle commence à le balancer à tout le monde, à la direction, etc. Donc dans la tête de tout le monde, tu vois, je suis une arriviste, quoi. C'est pas non, elle a 20 ans d'expérience, donc forcément, elle maîtrise mieux qu'un junior qui a un an et demi. C'est volontairement, cette nana, c'est une arriviste, elle a caché des trucs pour avoir des bons résultats et pour pouvoir se faire mousser à son retour de congé mat. Donc là, tu te prends ça dans la tête. Et moi qui suis plutôt, tu vois, à partager mes expériences, enfin, comme je te disais tout à l'heure, je donne des cours aujourd'hui en école de commerce, etc. Donc j'adore partager mon savoir. Tu te dis, mais t'es sûre, elle parle de moi en fait, ou j'ai pas compris, elle parle peut-être de quelqu'un d'autre. Enfin, tu te prends ça en pleine poire, tu te dis, mais comment c'est possible en fait d'en arriver là? Donc, 8 mois comme ça, avec de plus en plus, si tu veux, de stratégies de harcèlement. Donc, je suis exclue des réunions. Elle fait comme si, voilà, ma N-1 était là, managée. Ma N-1 me dit quand même, au bout de quelques semaines, quelques mois, elle me dit que, globalement, elle le dit mieux que ce que je vais lui dire là, parce qu'elle l'a dit en politiquement correct, mais que mon retour l'a fait chier et qu'elle aimait bien mon poste. Donc là, tu te prends ça. Donc, tu te dis, OK, donc je suis coincée en sandwich entre ma N-1 qui veut que je parte, mais qui ne me le dit pas officiellement, parce qu'à chaque fois que je lui dis, mais écoute, tu veux qu'on en dise, ah mais non, tu te fais des films. Et puis ma N-1 qui veut prendre mon poste. Donc là, tu te dis, je fais quoi? Et puis toi, derrière, tu enfin, t'as aussi ta famille. C'est-à-dire, tu dis, j'ai 4 enfants, j'ai des charges, aussi relatives aux revenus que je gagne, etc. Enfin, je fais quoi? Est-ce que je laisse tout tomber et puis advienne que pourra? Mais ça, moi, c'est compliqué. Ou est-ce que je me bats? J'essaye d'obtenir mon droit, enfin, j'essaye que la situation change. En fait, dans ce type de situation, malheureusement, tu t'épuises. Parce que quand quelqu'un a décidé
pourrir la vie, ouais.
En fait, il finit par te virer. Et j'aurais dû le savoir de ma première expérience, puisque mon manager voulait déjà me virer à mon retour de congé mat. Il a réussi 3 ans après à le faire. J'aurais dû me dire, de toute façon, quand quelqu'un veut te virer, il te vire. Donc, à un moment donné, oui, tu peux te battre, mais ça ne fait que repousser l'échéance qui va arriver. Et donc voilà. Et je me suis retrouvée effectivement 8 mois après. Donc un jour, donc après beaucoup de problématiques, des périodes vraiment difficiles, une fois j'ai une de mes collègues, ma collègue qui était revenue de congé mat, qui me retrouve en pleurs dans le bureau. Donc elle, je m'entendais très très bien. Elle me dit, écoute Nathalie, tu ne peux pas rester comme ça. Maintenant, je t'emmène voir l'infirmier, parce que moi, je ne voulais pas ni aller voir l'infirmier du travail, ni prendre contact avec les DP, ni, tu vois, parce que je m'étais dit, ça va envenimer la situation. Alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire, tu t'enfermes toi-même en te disant, je ne veux pas envenimer la situation, mais peut-être que si j'avais été voir les DP et qu'ils avaient fait ça, ça n'aurait peut-être rien changé, mais ils auraient fait une alerte, tu vois, à la direction. Peut-être que ma manager, parce qu'elle avait déjà fait du harcèlement à d'autres personnes qui avaient fait des burn-out ensuite et qui étaient parties de l'entreprise. Donc, c'était quelque chose, si tu veux, qui n'était pas sa première fois. Mais tu te caches aussi, tu te mets des œillères en disant, non, mais peut-être qu'il a fait quelque chose, lui, pour le mériter. Tu vois, enfin, finalement…
Moi, c'est différent.
Ouais, tu joues… Enfin, quelque part, tu joues le jeu de la direction… Parce que tu te dis non, mais quand même, elle n'est pas si méchante que ça, elle ne peut pas avoir en objectif de faire partir les gens, etc. Alors qu'en fait, bah, quelque part, si, parce que c'est une entreprise qui ne va pas bien depuis des années, qui perd du chiffre d'affaires depuis des années, qui a des actionnaires et que leur objectif, c'est à la fin de l'année, toujours donner de l'argent et le même argent aux actionnaires. Donc, bah, quand tu as ton chiffre qui baisse, bah, tu baisses ta charge et qu'est-ce qui est le plus simple à baisser? C'est de faire partir les salariés, en fait. Parce que tu ne vas pas déménager
tous ceux qui ont des gros postes avec des gros salaires et compagnie.
Exactement, exactement. Et là, en fait, ma manager s'était dit, bah, finalement, j'ai une N-1 qui est capable de faire le travail de Grimaud à 2 fois moins de salaire. Donc, je gagne, en fait…
mathématique.
Et c'est juste mathématique. Et toi, finalement, tu es juste un pion, mais tu te le prends de plein fouet. Donc, tu as du mal à… t'as du mal à prendre du recul, enfin sur le moment t'as du mal à prendre du recul en fait, à te dire c'est pas contre moi, c'est moi parce que bah, c'est moi qui suis là, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été quelqu'un d'autre.
Je suis un pion sur l'échiquier qu'il fallait faire tomber.
Exactement, exactement. Mais sur le moment, vraiment tu le vis, moi je, en plus c'était la 4e si tu veux, donc tu te dis mais là maintenant j'en rigole, je dis c'est mieux que le loto, hein. Chaque grossesse tu gagnes. tu as une meilleure chance que que l'auto, mais sur le coup, non, tu ne le prends pas comme ça. Hein. Tu te dis, mais pourquoi c'est moi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis tu sais, tu te dis, mais je fais exactement, j'ai la même attitude qu'avant mon congé mat. Je fais exactement pareil qu'avant mon congé mat. J'ai des bons résultats comme avant mon congé mat. Et je me prends en fait des tirs toute la journée. Une fois, elle m'a quand même reproché d'avoir des trop bons résultats par rapport à d'autres équipes et donc de mettre en porte-à-faux le travail des autres.
Ça, c'est magique.
Ah ça, c'est... quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, j'ai pas bien entendu. Je dois pas parler français correctement. Ou... Voilà, et tu es là, tu te dis, non, mais c'est... Enfin, c'est du délire. Et ça m'a vraiment dégoûtée de l'entreprise. Vraiment, là, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, je crois que l'entreprise ne m'aime pas ou je ne suis pas faite pour l'entreprise, j'en sais rien. Mais il faut que je change. Faut que je change complètement. Tu vois, là, je me suis dit, quatre congés mat, quatre problèmes avec quatre, enfin, pas quatre personnes, mais trois personnes différentes. Finalement, faut pas que je continue dans l'entreprise, même si je veux plus avoir d'enfants, parce que là, on s'est dit qu'on s'arrêtait à quatre, mais je me suis dit, je vais voir ça, tu vois, même pour d'autres personnes. Et en fait, ça va pas le faire.
Et donc, du
Donc,
coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là?
alors, c'est toujours très compliqué à ce moment-là parce que, tu sais, moi, j'ai un besoin d'être rassurée d'un point de vue financier. Donc, tu dis, OK, mais je prends la décision d'eux. Et puis ensuite, bah, si je ne peux pas assumer financièrement mes quatre gosses, comment je fais? Donc, tu sais, tu es quand même partagée, quoi. Tu te dis, et puis tu te dis, et puis au bout d'un moment, je me dis, mais j'ai rien fait, en fait. J'ai rien fait pour mériter ça. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait à moi de lâcher l'affaire alors que j'ai rien fait pour mériter ça, tu vois. Et en fait, le jour où j'étais voir l'infirmier, où ma collègue m'a emmenée voir l'infirmier, donc au début, l'infirmier donc me voit, effectivement, j'étais en larmes, etc. Et puis il me dit, bon, bah, racontez-moi, Madame Grimaud. Donc je lui raconte. Et puis il me finit par me dire, au début, tu sais, il me regarde un peu sceptique, du genre, non, mais elle est complètement mytho, celle-là. Et puis il me dit, mais Madame Grimaud, vous me dites que vous avez des mails échangés avec votre manager. Est-ce que vous pourriez me les envoyer, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Donc le soir, j'envoie tous les mails. Et le lendemain, il me renvoie un mail, il me dit, vous pourriez repasser, s'il vous plaît, me voir? Alors j'étais chez moi à l'époque parce que j'avais posé ma journée. Donc je lui dis, bah non, j'ai posé ma journée, je suis en congé, mais je peux vous appeler. Donc il me dit, appelez-moi, appelez-moi. Donc je l'appelle. Et là, il me dit, mais Madame Grimaud, en fait, de tout ce que je lis dans les mails d'échange avec votre manager, elle ne veut plus de vous dans l'entreprise. Et elle met en place des techniques pour vous faire partir. Et c'est là qu'il me fait comprendre qu'en fait, elle met en place des techniques de harcèlement. Et tu vois, c'est con, mais le fait d'avoir mis un mot sur ce que je subissais, du coup, je me suis dit, OK, je sais ce que c'est maintenant et je sais contre quoi je dois me battre. Alors qu'avant, tu vois, tu étais dans l'incompréhension, tu te dis, mais je ne comprends pas. Je fais comme ça, je fais comme ça, je fais exactement pareil qu'avant mon congé mat. Et avant mon congé mat, j'étais grosso modo, j'exagère, mais Dieu sur terre, hein, c'est-à-dire j'avais des félicitations de tout le monde. Et là, je fais exactement la même chose et je suis plus bactère. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc, tu comprends pas. Et le jour, en fait, où on te dit, mais ce sont des techniques de harcèlement, où tu en discutes, du coup, de manière informelle avec l'infirmier, ça m'a fait complètement changer la vision que j'avais parce que je savais contre quoi il fallait que je me batte. Et donc là, j'ai dit, OK, je me fais harceler, il n'y a pas de souci. Je vais commencer à monter mon dossier. Et donc, à chaque fois, par exemple, qu'elle me faisait un mail, elle m'a fait des mails du genre, tu sais pas manager,
Celle où tu dis
voilà, un
qu'elle
mail.
est un peu con, entre guillemets, parce que enfin, quand tu sais que tu rentres dans ce genre de truc, tu laisses pas de traces. Enfin, en tout cas, pas
Mais
écrites.
alors, du coup, quand elle faisait à l'oral, alors des fois, elle m'envoyait des mails, mais souvent, elle faisait à l'oral. Et donc, moi, je jouais vraiment la blonde, du genre, tu m'as dit lors de la réunion, machin chose, que blablabla, je
Et
suis
elle
écrite.
contestait pas après.
Elle contestait pas, tu sais, au lieu de dire, mais non, mais en fait, je suis désolée si tu as compris ça, c'est pas du tout ce que je... Non, elle contestait pas. Donc, du coup, j'avais plein de mails, si tu veux, qui la remettaient en porte-à-faux sur son comportement, sur lequel elle avait rien à dire. Et l'exemple qui a été flagrant, c'est que au mois d'octobre, je crois, ouais, c'est ça, au mois d'octobre, elle envoie un mail à toute l'équipe marketing. Mais je ne suis pas dedans. Hein. Elle envoie un mail à toute l'équipe marketing pour dire attention, posez bien vos vacances pour Noël, l'entreprise sera fermée tel jour, envoyez bien vos demandes. Et puis, j'ai une collègue, enfin une personne que je manageais, qui vient me voir et qui me dit, oui, alors par rapport au mail de Nathalie, moi je voulais. Et là, je lui dis, mais quel mail? quel mail de... Parce qu'elle s'appelait Nathalie aussi, comme moi, la manager. Pas le... Donc, c'était pas moi, mais c'était ma manager. Et puis, elle dit, t'as pas reçu le mail de Nathalie? Puis, j'ai fait, non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc, elle me dit, attends, je te le retransfère et tout. Et là, effectivement, tu avais toute l'équipe marketing,
Donc, tu dis
sauf moi.
qu'il y avait sûrement un marketing hat, le nom de la boîte, et elle s'était amusée à faire tout le monde, quoi.
Je sais pas, mais en tout cas, je sais pas ce qu'elle a fait, mais j'étais pas là. Donc, j'enlève le nom quand même de la personne qui me l'avait transmise parce que je voulais pas.
Ouais, la mettre en
Et je lui
porte-à-faux.
envoie le message et je lui dis, je suis désolée, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas dans ce mail. Ça faisait quand même 7 mois hein, que j'étais revenue de congé matin. Et elle me dit, oh, je suis désolée, c'est parce que tu es revenue de congé mat. Et du coup, je n'ai pas pensé à te rajouter à la mailing list, machin et tout. Mais par contre, j'avais ma collègue, tu sais, qui était partie en congé
Oui,
mat un
ouais.
mois et demi, qui avait un mois et demi d'écart avec moi, qui, elle,
L'avait
était dans la
reçu.
liste, qui avait reçu, qui était dans la liste. Alors, je lui ai répondu pareil. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi telle personne qui est revenue un mois et demi après moi, elle est dans la liste, et moi qui suis revenue un mois et demi avant, je ne suis pas dans la liste en fait. Pourtant, on est parti en congé mat quasiment même. Par exemple, et tu vois ça, du coup, elle n'a plus répondu. Parce que qu'est-ce que tu veux répondre? Bah oui, en fait, je t'ai retiré parce que je compte bien te virer d'ici Noël. Tu vois, tu peux pas le dire, donc du coup, tu n'as plus d'arguments à dire. Donc ça a été comme ça, comme ça, comme ça. Et puis.
Ou ou te mettre la pression en disant que toi, t'allais pas prendre de vacances à Noël ou...
Oui, voilà, où te mettre, voilà. Enfin, mais du coup, il y avait un truc derrière qu'elle ne pouvait pas justifier par écrit, ce n'était pas possible. Et ensuite, ce qui a déclenché en fait l'action, je dirais le changement d'action, c'est que elle me reconvoque. Donc, alors, non, d'abord avant ça, mon mari me dit, écoute, tu vas pas tenir sur la, parce que ok, tu veux te battre, etc. Tu veux pas lâcher prise parce que t'as rien à te reprocher, mais tu es quand même épuisée, t'es quand même, enfin, psychologiquement, c'est quand même dur. Il me dit, prends au moins une journée de congé parental. La petite dernière, elle avait même pas encore un an, donc j'y avais encore droit jusque, tu
Non,
sais,
pas
jusqu'...
une journée de congé parental, quoi, par semaine?
Oui, par semaine.
Ok, d'accord.
Voilà. Donc il me dit comme ça, au moins, t'es qu'en 4/5, tant pis, on n'aura que 4/5 de salaire, mais j'ai fait les calculs, parce qu'il faut qu'il me rassure à chaque fois. Donc j'ai fait les calculs, t'inquiète pas, ça passe au niveau des frais, etc. Donc je finis par lui dire, OK, et donc j'envoie une lettre le mi-septembre en disant que donc je souhaite prendre un congé parental à partir, donc il y a un mois de délai, donc à partir de mi-octobre, etc. Et donc mi-octobre, je bascule en fait en congé parental, donc je me libère le lundi. Et c'est vrai que ça permet de souffler. Alors, je me dis, il ne faut vraiment pas que je bosse. Parce que tu sais, tu as tendance à te dire, je vais quand même bosser. Non, il ne faut vraiment pas que je bosse. C'est vraiment une journée pour moi, pour les enfants et tout ça. Et puis, un mois, même pas un mois après, je suis convoquée par elle qui me dit, donc elle m'avait déjà retiré, tu sais, une journée de télétravail. Et puis, il restait une journée de télétravail qui était la même que toute mon équipe, en fait. On était tous en télétravail ce jour-là. Et puis, elle me dit, Nathalie, on va te retirer cette deuxième journée de télétravail. Alors, je lui dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce que tu sais, ton équipe a vraiment besoin de toi. Ils ont vraiment besoin que tu sois au quotidien à leur côté. Et comme tu as déjà pris une journée de congé parental, c'est pas possible. Il faut que tu sois physiquement. Et donc là, je la regarde et je lui dis, mais en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'aille chez eux le vendredi? Parce qu'ils sont tous en télétravail. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je ne comprends pas comment je peux les aider, moi, en étant sur site, alors qu'eux ne le sont pas. Donc là, elle s'est retrouvée un peu bête et elle me dit, non, mais de toute façon, c'est comme ça. On a décidé que on t'a enlevé ta journée de télétravail. OK. Et donc là, je me suis dit, bon, allez, maintenant je sais. Donc, tu vois, je lui suis un peu rentrée dedans. Je lui dis, écoute, je lui dis, j'ai bien compris que tu voulais me faire partir. Je lui dis, je ne donnerai pas ma démission. Ce n'est pas dans mon intérêt. On peut s'asseoir, on peut discuter ensemble entre adultes, trouver une solution, mais sache que je ne donnerai pas ma démission. Et je pars. Tu vois, et la réunion se termine comme ça, etc. Et je pars. Donc ça, c'était un jeudi soir. Donc le vendredi, j'étais en télétravail. Et le lundi, du coup, j'étais en journée congé parental. Et je reviens en fait le mardi sur site. Donc la matinée se passe normalement, etc. Et puis j'avais une réunion avec un prestataire, ma manager justement, et la N-1. Et là, je vois que mon mari n'arrête pas de m'appeler. Il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle. Et on s'appelle en fait jamais, on s'envoie des textos, mais jamais il m'appelle comme ça au bureau, quoi, tu
Parce
vois.
qu'il y a un truc, quoi.
Ouais, et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un des gamins qui s'est exclu.
Ouais.
Tu sais, tout de suite, tu penses aux enfants, tu dis, s'il t'appelle, c'est que. Donc, je lui réponds par texto, je lui dis, écoute, est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est urgent? Parce que je suis en réunion avec ma boss plus ma N-1, je voudrais éviter de sortir. Et là, il me répond par texto, il me dit, Si, justement, tu sors tout de suite. Alors
Ok.
là, ouais, alors là, il y a, tu sais, tu as le moment de panique, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me demande de sortir tout de suite et tout ça? Donc, je m'excuse auprès du prestat que je connais très bien, parce qu'en plus, c'est quelqu'un que je vois en dehors, enfin, on se suit depuis longtemps dans le monde du digital. Donc, je lui dis, excuse-moi, j'ai un problème, en fait, assez urgent, je m'absente 5 minutes. Je n'étais pas sortie du bureau, enfin, de la salle de réunion, qui me rappelle. Il me dit, ça y est, t'es sortie? C'est bon,
Qu'est-ce qui se passe?
il me dit, tu t'isoles. Alors, je vais, tu vois, dans un endroit où je peux m'isoler et tout. Et puis là, il me dit, je viens de recevoir une lettre, en accusé réception, que j'ai
Ouais,
réceptionnée
recommandé.
à ton nom, en fait, que j'ai ouvert parce que j'ai vu que c'était Wolters Kluwer. Il dit, tu es convoqué pour un entretien préalable à licenciement. Donc, là, tu vois, tu t'es dit, OK, encore un truc qui te tombe sur le coin, du nez, en fait.
Bah, t'as envie de dire,
Et
elle aurait quand même pu avoir le cran de te dire quelque chose, quoi. Enfin, pas
c'est ça,
juste le
de te l'annoncer, de machin.
recommander.
Donc, en fait, tu passes, tu sais, du jeudi, tu passes, tu es essentiel. C'est pour ça qu'on t'arrête ta journée de télétravail, parce qu'il faut que tu sois avec tes collègues qui, eux, ne sont pas sur site. Ah, au mardi, finalement, on va pouvoir se passer de toi, Nathalie. T'es pas si essentiel que ça dans l'entreprise. Donc là, tu te dis, c'est vraiment du foutage de
Et là,
gueule.
ils ont donné quoi comme prétexte?
Alors, attends, j'ai pas de prétexte. J'ai juste, tu sais, quand tu es convoqué comme ça, t'as pas de prétexte parce que l'entreprise, en fait, te donne le minimum de billes pour que tu te prépares le moins possible. Donc, j'avais juste entretien. Alors, c'était, je crois, on devait être style en novembre, ça devait être fin novembre. Enfin, tu as un délai, tu as 10 jours, je crois, de délai, enfin, quelque chose comme ça. Et donc là, je me dis, il faut que j'agisse tout de suite. Et mon mari me dit aussi, il faut que tu agisses tout de suite, il faut que tu fasses un mail récap avant. En tout cas, ils ne savent pas qu'on a récupéré encore la lettre, ils ne savent pas à quelle heure on l'a récupérée, etc. Ils ne savent pas que j'ai signé pour toi et tout. Il me dit, il faut que tu fasses un mail, en fait, tout de suite, en disant, voilà, je me fais harceler depuis tant de temps, machin, nanana, nanana, pour que derrière, tu vois, ça puisse nous
Oui, ça
servir.
peut pas être ouais.
Donc, du coup, je re-rentre complètement fébrile, tu sais, en réunion, en disant, oh là là, oh là là. J'écoute plus du tout la réunion, mon pauvre Presta. Heureusement, voilà, il me connaît bien, mais j'écoute plus du tout. Je parle quasiment plus. Enfin, tu vois, t'es éteinte dans ces moments-là, t'es complètement éteinte.
Et puis, t'as surtout
Et
pas
puis,
envie de
t'éclates.
te retrouver avec ces deux personnes en tête à tête.
C'est ça. Et en plus, t'es obligé de faire semblant, de sourire, de machin, alors qu'en fait, t'as juste envie de leur mettre ton poing dans la figure, quoi, de dire, mais ayez au moins des couilles de me le dire en face. Tu vois, t'as envie de leur dire, mais c'est quoi ces manières de faire? Donc, bon, tu es obligé de faire politiquement, hein, tu peux pas te battre avec tout le monde. Sinon, ce serait. Donc là, tu finis la fin de la réunion et puis mon mari m'envoie, tu vois, un mail parce que je lui dis, je suis en réunion, je vais pas pouvoir. Donc, il me dit, voilà, je t'envoie une trame que tu retravailles, que tu envoies. Donc, du coup, en fin de matinée, j'envoie le mail à ma manager, à la RH, etc. Et puis, je vais déjeuner, toujours aussi fébrile, tu sais, en me disant. Bon, bah ça y est, quoi. Ça y est, t'es sous 3 mois, t'es au chôme dû, en fait. Hein, donc, ça y est, t'as plus d'autres options. Enfin, il va falloir que tu te bouges pour rechercher quelque chose. Et là, tu te dis, mais en même temps, j'ai plus envie de bosser en entreprise. C'est fini, quoi. Enfin, là, ça a été. Tu sais, comme quand tu manges trop de gâteaux et tout, puis à un moment donné, t'es écœuré, t'en veux plus pendant des mois. Ben là, c'est ça, quoi. Tu te dis, c'est fini. Donc, du coup, bah, tu vas manger, etc. Et puis, en fait, elle m'avait mis une réunion style à 13h30 ou 14h, ou je ne sais plus. Donc, je reviens au bureau. J'avais réunion avec elle. Là, pour le coup, je ne m'y attendais pas. J'ouvre la porte. Son bureau était fermé. Il n'est jamais fermé, sauf quand elle est en réunion. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Elle n'est peut-être pas revenue de post-déj et tout ça. Elle a peut-être. Et là, j'ouvre le bureau. Enfin, je frappe, j'ouvre le bureau et je la vois avec la RH assise. Et là, toutes les deux me disent, oui, alors on t'a convoqué parce qu'on a quelque chose à te dire. Alors, toutes les deux, hein, bien sûr, elles ne te regardent pas dans les yeux. Hein. Elles ont toutes les deux les yeux sur le bureau, tellement elles sont à l'aise de t'annoncer ça. Et puis, elles te disent, ben voilà, on te remet en main propre, en fait. Donc là, je me dis, j'ai envoyé le mail. Il faut que je note l'heure sur le. Donc là, je dis reçu en main propre, le machin chose, à 13h50 ou je ne sais plus quelle heure. Tu vois, pour que.
Ouais, qu'il y ait pas de ouais, qu'on puisse mettre en comparaison le ouais.
Exactement du genre, on lui a fait la lettre parce qu'en fait, elle a envoyé le mail. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, je signe et tout, je mets l'heure. Donc. J'insiste bien sur l'heure. Et puis voilà. Et puis là, t'attends, en fait. T'attends ton. On va dire, tu sais, t'attends un peu comme de monter sur l'échafaud, quoi. Tu te dis, bah là, j'attends. De toute façon, je ne sais pas comment me préparer, etc. tu te dis, bon, bah, je vais quand même me rapprocher des DP. Et puis, la plupart, tu sais, alors, il y en a certains qui se battent vraiment dans l'entreprise, mais la plupart, ils sont un peu au chaud, quoi. Donc, il faut pas trop faire de vagues, parce qu'ils savent que c'est une entreprise qui va pas bien, ils savent que de toute façon, il y a des départs. Donc là, tu te dis, bon, est-ce que j'y vais avec un DP, est-ce que j'y vais pas avec un DP? Puis finalement, tu te dis, allez, je vais toute seule. Et puis, tu te renseignes aussi avant, tu te dis, bon, est-ce
Vous ne
que
voulez
je
pas
dis,
prendre un
est-ce que...
avocat?
Alors, j'aurais pu, mais l'avocat, il peut pas venir lors d'un entretien préalable au
D'accord.
licenciement. C'est vraiment que, en fait, tu peux être accompagné, mais par quelqu'un de l'entreprise.
OK.
Donc, bien sûr, tu ne vas pas demander à un collègue de t'accompagner, parce que j'aurais pu demander à une collègue, mais quand elle n'est pas DP, du coup, tu la mets en porte-à-faux, donc tu ne vas pas lui demander de... Et après, les DP, ben, tu te dis, est-ce que j'en demande... Enfin, ceux qui étaient hyper investis, j'avais une personne qui était hyper investie en tant que DP, mais elle était en arrêt maladie. Donc, du coup, j'en avais contacté d'autres, mais tu sentais que... Ils voulaient... enfin, tu vois, ils sont plus là pour protéger leurs fesses que pour protéger les salariés. Donc tu dis, bon, bah, de toute façon, j'y vais. Et puis tu te renseignes aussi, moi j'ai pris contact avec des amis qui sont à des postes élevés, qui m'ont dit surtout, tu dis rien, parce qu'en fait, l'entretien préalable, de toute façon, ils ne reviendront pas sur la décision. C'est juste pour préparer leurs arguments de ta lettre de licenciement. Donc plus tu leur donnes d'arguments, plus ils auront
Tout ce qui
d'arguments.
pourrait être dit pourrait être retenu contre toi, quoi.
Exactement, exactement. Donc je dis, ok, politique. Je ne dis rien pendant l'entretien. Donc, l'entretien qui devait durer, ils avaient prévu 1 heure et demie, un truc comme ça. D'habitude, tu vois comment je parle. Là, ça a dû durer, allez, 25 minutes, quoi. Ça a été expédié. Et donc, du coup, alors, c'était très marrant parce que tu sais, quand tu as vraiment quelque chose. Alors, moi, j'ai eu une fois à licencier une personne, malheureusement pour incompétence. Tu as vraiment des choses, en fait. T'as pas besoin de lire un texte, tu vois, pour pouvoir, parce que tu sais ce qui s'est passé, enfin, t'as échangé, tu dis, bah voilà, dans tel cas, t'as pas fait ça, dans tel cas, t'as pas fait ça, etc. Là, elle avait, ma manager et puis la RH, avaient toutes les deux rédigé mot pour mot. Et c'était très marrant, donc ma manager lisait tout, hein, donc on avait l'impression que c'était mon histoire. Donc, Nathalie, tu as été embauchée à telle date dans l'entreprise pour tel poste, tu as fait ci, tu as fait ça, enfin, tu vois. Et en fait, c'était très marrant parce qu'à un moment donné, elle a loupé une ligne. Et la RH l'a reprise en disant, t'as oublié la ligne, il faut bien que tu dises. Je me suis dit, non, mais quand t'as vraiment quelque chose à reprocher, alors tu peux te faire des bullet points parce que tu peux te dire,
Tu n'y mets
bon,
pas mot
peut-être.
par mot.
Voilà, mais tu mets pas mot par mot, en fait. Enfin, et donc là, raconter, si tu veux, un peu toute mon histoire, du jour, et puis t'es parti en congé mat, et puis machin, et puis bidule. Et à la fin, tu sais pas trop ce qu'elle te reproche, en fait. Elle a raconté ton histoire, mais tu sais pas trop ce qu'elle te reproche. Et donc, elle me dit, bon, alors, du coup, tu as des choses à dire? Je lui dis, non, non, moi, j'ai rien à dire. Je dis juste que je suis pas du tout d'accord avec ce qui a marqué, là, dans votre document. Mais j'ai rien à dire. Donc, elle essaye. Alors, la RH me dit, non, mais Nathalie, on est là pour discuter. Surtout, n'hésite pas. C'est vraiment un moment d'échange, tu sais. Et c'est en fait, c'est avec cette même RH que j'avais fait le licenciement donc 1 an et demi avant d'une personne et qui m'avait dit justement pour me préparer en fait en tant que manager au licenciement, qui m'avait dit de toute façon à partir du moment où on envoie la lettre de convocation préalable à l'entretien, on ne revient jamais parce que du coup c'est compliqué pour le manager, c'est compliqué pour le manager et de toute façon on a déjà pris la décision,
Décision.
juste légalement on est obligé de le faire avec telle date, etc. Parce que moi, au début, je m'étais dit, écoute, on peut juste... voilà. Et puis après, s'il s'engage à vraiment mieux bosser, à s'investir, etc. En fait, elle m'avait dit, non, non, surtout pas. Donc là, je la regarde et je lui dis, écoute, Sabine, il y a 1 an et demi, on a fait un licenciement ensemble. Ça a changé depuis. C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, en fait, la décision n'était pas prise en amont de l'entretien préalable, mais où, enfin, elle était prise en amont, mais aujourd'hui, elle n'est pas prise en amont, on est là pour discuter. Donc là, elle est devenue toute rouge. Elle dit, bon, alors, t'as rien à dire? J'ai fait, non, j'ai rien à dire. Je conteste juste, tu vois, parce qu'il m'avait dit, mais les personnes que je connaissais m'avaient dit, surtout, chaque fois, tu dis, je conteste. Je conteste, je suis pas d'accord, mais je conteste, mais sans expliquer ni pourquoi ni comment. Donc l'entretien se termine comme ça. On te donnera la décision, donc je sais plus quel est le délai légal, sous X jours, machin. Donc là, c'est pareil, t'attends, mais en fait, tu sais que
Il n'y a rien
c'est
à attendre,
juste
quoi. Ouais.
un délai. Et donc le jour J, je suis convoquée en fait à 16h30 dans le bureau de la RH, qui me dit donc on a décidé de te licencier,
Quelle
blablabla.
surprise!
Voilà, qui me fait tout son laïus et tout ça. On t'a envoyé aujourd'hui la lettre de licenciement. Tu as jusqu'à 18h pour prendre tes affaires et pour rentrer chez toi. Ton préavis sera payé. Donc tu pars comme une voleuse. Tu peux pas dire au revoir à tes collègues, à qui tu n'as rien dit en fait. Hein, moi, mon équipe. À part celle qui m'avait vu pleurer, ne savait pas ce qui se tramait derrière. tu pars du jour au lendemain, sans dire au revoir, comme une voleuse, avec tes trois petits crayons et ton truc, et à 18h, tu dois être partie de l'entreprise. Tu sais, comme aux États-Unis, quoi. Vraiment dans le même état d'esprit. Donc, tu te dis, OK, en termes d'humain, on repassera, hein, parce que je crois que là, les ressources humaines ont perdu leur côté humain. Et donc, là, tu rentres chez toi et tu n'as qu'un jour de Noël, hein, bien sûr. Hein, tu vois, donc, tu n'as qu'un jour de Noël et tu te dis, merci les gars, je vais passer un Noël bien dégueulasse grâce à vous. Je suis dans un état complètement déplorable, du genre vous auriez pas pu attendre un mois de plus histoire que tu vois les fêtes se passent bien, etc. Non, vraiment, tu vois, ils font tout pour vraiment te mettre dans l'état le plus pitoyable possible. Et là arrive en fait du coup une nouvelle phase de ma vie, puisque comme je t'avais dit, je m'étais déjà posé la question, je m'étais dit c'est fini l'entreprise, c'est pas pour moi. Et puis mon mari me dit, écoute, tu as quand même déjà développé, tu as quelques clients, donc c'est pas comme, c'est pas, enfin même si ça ne faisait pas du tout un revenu, mais tu as quand même un petit matelas.
Base, ouais.
Voilà, je donnais des cours donc justement à l'IPAG, aussi dans d'autres écoles de commerce. Donc même si c'est quelques heures par an, il me dit, voilà, tu peux aller négocier peut-être des heures supplémentaires, etc. Donc il me dit, écoute, réfléchis quand même à ce que tu veux faire. Donc les premières semaines, les premiers mois, déjà, bon, tu as le temps de te relever, tu vois, de la situation. Et puis, donc, je commence à réfléchir. Puis, je me dis, ouais, effectivement, je vais me lancer en tant que consultante. De toute façon, j'ai le réseau grâce à l'agence, mine de rien. J'ai le réseau aussi grâce aux soirées, aux événements, enfin, tu vois, au networking que je peux faire régulièrement. Et puis, je vais me lancer, puis on verra bien. Et en parallèle de ça, je me dis, quand même, je vais mettre en place des actions judiciaires contre Wolters Kluwer et contre ma manager, tu vois. Et là, du coup, j'engage en fait un avocat, prud'homal, je lance mon action. Et puis, je me dis, il y a quand même eu du harcèlement. C'est quand même pas la première fois que cette manager fait ça. Je me dis, même si je sais qu'au pénal, j'ai peu de chances de gagner, parce que de toute façon, quand tu vois que tous les voleurs pédophiles and co recommencent 50 fois avant d'être en prison, ou même tu te dis, bon, pour du harcèlement, même s'il y a eu l'affaire Télécom il y a quelques temps, mais là, il y a eu des décès, tu vois, il y a eu des suicides. Donc, moi, je suis toujours en vie, etc. Donc, je me dis, je vais quand même mettre en place une action pénale contre ma manager. Parce que ce n'est pas normal, en fait. Et ça ne devrait pas se reproduire. Et c'est inadmissible qu'elle ait déjà fait avant moi à plusieurs personnes, que moi, je sois du coup la troisième dans cette équipe-là à subir ça, et qu'elle puisse continuer en toute impunité, en fait. Et donc, je lance les deux procédures. Donc, prud'homal et pénale. Et puis, en parallèle de ça, donc je commence à me lancer en tant que consultante indépendante. Je prends plus de cours en école de commerce, etc. Et puis, fin 2019, je suis contactée sur LinkedIn par une personne, un Espagnol en fait, qui me dit, on a vu votre profil sur LinkedIn, on serait très intéressé pour discuter avec vous, on a un projet à vous proposer, etc. Donc, au début, je me dis, bon, ça m'engage à rien. En plus, c'est des Espagnols. Moi, j'adore l'Espagne, j'adore les pays hispanophones. Je me dis, ça me fera reparler un petit peu espagnol, c'est pas mal. Et donc, la personne m'appelle et me dit, on a créé en fait un concept en Espagne, Mamis Digitales, qui s'adresse aux mamans qui ont eu des problématiques en fait dans leur vie professionnelle et qui veulent se reconvertir. Et on propose donc une communauté, une formation pour les former à un métier d'avenir qui est le métier de community manager. Donc là, je me dis, c'est quand même super intéressant. En plus, ça fait écho à mon histoire personnelle de pouvoir aider des mamans et de pouvoir en fait leur permettre de ne pas subir ce que moi j'ai subi pendant ces quatre problématiques. Donc, j'échange avec eux, je vais les voir en Espagne, on discute. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'échanges. Et puis, mon mari me dit, mais elle est go en fait. C'est vraiment pour toi cette histoire-là. Enfin, ce truc-là, c'est vraiment pour toi. Et du coup, je signe en fait un accord avec eux et je décide de lancer donc Maman Digital en France sur le même concept que Mamis Digitales en France. Et donc, je me lance en fait en octobre 2019. Voilà. Et donc, depuis, j'accompagne. On est à plus de 500 mamans qui ont été formées à ce métier. Alors, beaucoup qui ont subi, parce que quand je leur raconte mon histoire, elles me disent « ça fait trop écho ». Nous aussi, on a subi des mises au placard, des problèmes, des licenciements, des machins. D'autres qui sont passés à travers, heureusement d'ailleurs, hein, parce que comme je disais, tous les managers heureusement, et toutes les entreprises ne sont pas comme ça, et heureusement, même s'il y en a une grosse partie, mais qui du coup disent, voilà, on veut mieux concilier notre vie pro, notre vie perso. Et donc, voilà, je les accompagne aujourd'hui à faire le premier pas, finalement. Ce premier pas, moi, que j'ai eu du mal à faire, tu vois, parce que finalement, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur il y a 10 ans, et j'ai passé le cap qu'il y a 3 ans, alors que finalement, pendant 7 ans, j'étais un peu entre, je dirais pas entre les deux, mais j'avais du mal à me dire, bah oui, tu peux en vivre, bah oui, tu peux gagner ta vie, bah oui, tu peux avoir des clients, bah oui, tu peux prévoir ton emploi du temps, etc., en voyant toujours le côté négatif. Genre, oui, mais si jamais si j'y arrive pas, oui, mais si jamais je gagne pas assez d'argent, oui, mais si jamais mes clients sont pas contents, etc. Tu vois, toujours le côté en fait qui te freine et finalement les fausses excuses, plutôt que de te dire, bah en fait c'est possible. Alors bien sûr, ça demande de l'investissement, bien sûr, Paris, c'est pas construit en un jour, bien sûr, il y a des moments de doute, bien sûr, enfin tout ça, mais oui, c'est possible et c'est possible finalement de travailler avec des clients qui ont les mêmes valeurs que toi, parce que moi aujourd'hui, je choisis mes clients et ça, c'est quand même super sympa. De laisser tomber ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs. Moi, ça m'est arrivé sur un client avec lequel j'ai commencé à travailler, puis j'ai appris peu de temps après qu'il avait licencié une personne parce qu'il avait appris qu'elle était enceinte. Bah, je te raconte pas. Je lui ai dit, Monsieur client, j'ai plus le temps de travailler pour vous. Je vous recommande d'aller chercher ailleurs, etc. Et j'ai arrêté de travailler, par exemple, avec ce client-là. Et ça, c'est quand même hyper confortable, en fait, d'un point de vue de ton état d'esprit, parce que tu bosses avec des clients qui ont les mêmes valeurs que toi. Et aujourd'hui, en plus, chez Maman Digital, finalement, je répare un peu mes blessures en disant, bah, j'accompagne un certain nombre de personnes qui, soit n'ont pas à passer par cette étape-là, parce que j'ai quelques femmes qui ne sont pas encore maman, mais qui me disent dans la communauté, moi, je veux d'abord faire ma reconversion parce que justement, je sais que mes collègues ont subi ça et moi, je ne veux pas le subir. Donc, je veux prendre mes devants avant de faire des enfants. Soit des personnes qui l'ont subi ou pas, mais tu vois, du coup, je me dis quelque part, je panse un peu mes plaies avec ces mamans que j'accompagne.
Ça fait, enfin pour moi, ça fait énormément écho parce que tu vois, avec Pourquoi pas moi, c'est clairement ça. C'est l'idée de dire ce que je te disais avant qu'on branche le micro. C'est j'ai créé le podcast, j'ai créé le programme et compagnie et le livre pour justement permettre aux gens de pas se prendre le mur et de prendre en main leur vie avant même d'avoir tout ça. Et puis si bah, les gens ils se sont pris un mur, de pouvoir rebondir et pouvoir savoir quelle est leur place. Et c'est sûr que il y a une grosse partie, en effet, thérapeutique pour soi, avec l'envie d'aider les autres. Et finalement, c'est vraiment ça la définition finalement de la mission de vie. C'est tu fais quelque chose qui a du sens pour toi et qui a du sens pour les autres. Et ça, c'est assez magique.
Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que ça change tout parce que même quand tu es fatigué, même quand tu as un rythme soutenu, en fait, ce qui te motive, moi, des fois, tu vois, je suis un peu, je me dis, j'en ai marre ou je suis fatiguée. Et puis, bim, là, tu as un témoignage d'une personne qui arrive, qui te met trop les larmes aux yeux. Et tu dis, mais oui, mais c'est pour ça que je le fais. Et du coup, tu es reboosté à 300 et tu
Exactement.
repars, en fait, à fond. Alors qu'en réalité, 5 minutes avant, tu étais démotivée ou tu en avais marre ou tu étais fatiguée ou tu avais envie de partir en vacances ou tu vois tout ça. Et finalement, aujourd'hui, ce qui est aussi super chouette, et des fois, on me dit, mais tu travailles beaucoup, mais en fait, je n'ai pas l'impression de travailler. Parce que quand tu fais quelque chose avec le cœur, et je donne souvent l'exemple d'un chanteur, un chanteur, on ne va pas lui dire, hey, il est 18h, mon coco, donc tu reviendras chanter demain. Ou un peintre, tu ne vas pas lui dire, bah, pareil, t'arrêtes de peindre parce qu'il est 18h, on est vendredi soir, donc tu reprendras ta peinture lundi matin à 9h. Et en fait, quand tu fais quelque chose avec le cœur, finalement, tu bosses pas dans le sens,
C'est un
comme on
labeur.
l'entend, négatif, en fait, du genre, le travail, ça doit être forcément pénible, ça doit forcément être chiant, ça doit forcément. Enfin, tu vois, tout ça, en fait, tu l'as plus. Et donc, du coup, ouais, tu fais des trucs qui te plaisent, qui permettent aussi, quelque part, à la société d'avancer, j'espère, positivement. Et puis, ça, je trouve que ça n'a pas de prix, en fait.
Et donc là, du coup, depuis 2019, donc tu as toujours ton activité de consultante indépendante?
Oui, j'ai toujours mon activité, donc j'ai pas, enfin, j'ai plus beaucoup de clients parce que Maman Digital me prend quand même du temps, mais j'ai quelques clients. Et l'avantage, c'est que je travaille vraiment avec des clients qui me tiennent à cœur. Donc, soit les équipes sont top, soit la marque, voilà, j'aime beaucoup la marque. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, ça aussi, c'est chouette de pouvoir, et c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi aux mamans. Alors, bien sûr, quand on se lance, on ne choisit pas toujours ses clients, mais au bout d'un moment, quand on est établi, quand on commence, on peut choisir ses clients et vraiment bosser pour des entreprises qui nous tiennent à cœur. Tu vois, je ne sais pas, on est passionné par l'éco-responsabilité, et bah, trouver des entreprises dans ce domaine-là pour les aider à développer leur visibilité. Et ça, je trouve ça vraiment chouette.
Donc là, maman digitale, donc forme les mamans ou futures mamans au community management. C'est quoi? C'est un MOOC? C'est en présentiel? Comment ça se passe?
C'est complètement dématérialisé. Donc, c'est pour ça que je te disais en tout début, ce qui représente bien, c'est mon téléphone portable, parce qu'on leur apprend à travailler, principalement pas que, mais depuis leur téléphone portable. Donc, bien sûr, si tu as un Nokia 3310, hein, ça ne va pas être possible. Mais si tu as on va dire, un smartphone de dernière génération, avec les applications, tu peux faire quand même pas mal de choses. Et moi, ça m'arrive souvent quand j'amène, par exemple, mes petits au tennis, bah, de travailler, en fait, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de travailler depuis leur cours de tennis. Tu vois, donc ils sont contents parce que maman, elle est là, elle regarde. En même temps, quand c'est les autres qui jouent, bon, bah, comme ça, je peux faire mes trucs. Et tu vois, je peux avancer sans être pénalisée parce que j'ai pris 1 heure pour aller voir mes petits jouer au tennis. Ou alors des fois, quand j'attends mon grand, là, il fait une classe de cinéma, donc des fois, il a des films à tourner le soir et puis il me dit, viens me chercher à 22h. Et puis en fait, il est 22h30, t'es toujours là, il n'a pas fini. Et bien pareil, tu peux avancer, tu vois, grâce à ton téléphone portable et faire toutes les tâches. Donc en fait, la formation aujourd'hui, elle est complètement dématérialisée. Elle peut être faite grâce justement à une application mobile, on leur envoie des contenus tous les jours et on leur crée aussi, elles sont aussi dans un groupe en fait d'apprentissage avec une trentaine de personnes, donc c'est ce que j'appelle un peu leur classe. Tu vois, elles ont des collègues avec qui elles peuvent discuter, poser des questions. Et je suis accompagnée aujourd'hui, j'ai une équipe, donc je suis accompagnée par des tutrices qui font le relais entre elles et moi, notamment pour les questions, répondre aux questions, etc. Donc du coup, c'est une formation qu'elles peuvent faire de chez elles, au moment où elles le veulent, sur le temps le plus opportun. Ça peut être pendant la sieste des enfants, ça peut être le matin tôt, le soir tard, le week-end, etc. Elles s'organisent en fait en fonction de leur planning. Et en même temps, on a des moments que j'appelle en fait synchrone, donc où on est tout ensemble, où je vais répondre à des questions, où je vais revenir sur des sujets. Des fois, on va sur des sujets qui vont plus loin aussi que le community management. Et donc, ça dure 12 semaines. Et au bout de 12 semaines, elles ont toutes les techniques pour pouvoir gérer justement les réseaux sociaux des entreprises.
Super. Et pourquoi finalement le community management et pas justement ton activité initiale, à savoir tout ce qui était SIA?
Alors, pourquoi en fait le community management? Parce que je trouve que c'est un métier, alors c'est un métier qui est technique, mais parmi tous les métiers du marketing digital, c'est un des métiers les plus simples à appréhender. Bien sûr, il faut savoir bien écrire, avoir une bonne syntaxe, pas faire de fautes d'orthographe tous les 3 mots, etc. Mais finalement, c'est assez simple à appréhender, notamment dans la communauté. J'ai énormément de mamans qui n'ont jamais bossé dans le marketing ou le commercial, qui viennent de secteurs qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'ai énormément de mamans qui viennent du secteur de la santé. Là, avec la crise Covid, ça a été, je dirais, une hécatombe, en fait, hein, pour les infirmières, les aides-soignantes, etc., avec énormément de pression, énormément de choses. Et beaucoup se sont dit, finalement, on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Et puis, nous aussi, on a une vie, nous aussi, on a des enfants, nous aussi, on a envie de mieux concilier notre vie perso, notre vie pro. Donc, par exemple, j'ai beaucoup de mamans dans ce secteur-là. J'ai des mamans, par exemple, qui viennent aussi du monde de l'éducation. Donc, tu vois, des maîtresses, des personnes qui aident, etc. Donc, des personnes qui n'ont pas du tout de connaissances. Et pour entrer dans le domaine du digital, je trouve que le community management, finalement, c'est quelque part le métier le plus simple à apprendre. Et ça permet après, j'ai des mamans après qui se spécialisent, par exemple en copywriting, en SEO, en SEA, etc. Mais parce que du coup, elles ont bien appréhendé,
Ça fait une base.
elles sont bien montées en compétences, et c'est plus simple après de passer, tu vois, sur les autres sujets qui sont un petit peu plus complexes.
Ok. Et tout à l'heure, tu disais que maintenant, tu vivais dans Lyon.
Oui.
Donc, à partir de quand vous avez quitté Paris?
On a quitté Paris en 2015. Alors, ça a été un peu une opportunité, justement, suite à la grossesse de ma fille, de ma dernière. En fait, on a eu une opportunité de racheter une maison de famille dans la famille de mon mari, qui était dans Lyon, d'ailleurs. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, donc, de ma dernière, on s'est rendu compte assez tardivement que finalement, mon congé maternité allait du 15 octobre au 15 mai, je crois, ou 20 mai, enfin, quasiment sur une année scolaire. Et mon mari lui avait déjà pris son indépendance. Il a fait tout ce cheminement bien avant moi, pour le coup. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi on reste sur Paris? Parce que qu'est-ce qui nous retient à Paris? Ce qui nous retient à Paris, finalement, c'est mon activité. Mais là, pendant 1 an, j'ai plus d'activité. Donc, on a demandé aux enfants, donc aux 2 grands, on leur a dit, il y a 2 possibilités pour l'année prochaine, comme maman va accoucher. Soit on reste sur Paris Et donc, on continue à aller dans notre maison de campagne de temps en temps, soit on déménage dans notre maison de campagne. Et bien évidemment, tu imagines très bien des enfants. Donc, à l'époque, mon fils avait 8 ans et ma fille avait 4 ans. Entre un appartement en région parisienne avec un petit balcon, enfin une petite terrasse, et puis un jardin de plusieurs milliers de mètres carrés, le choix était vite fait. Donc, ils ont dit, ah, on va aller dans la maison. Donc, on s'est dit au début, on s'est dit, on va déménager juste pour une année et puis on remontera l'année d'après, en fait, sur Paris. Et l'année d'après, enfin, donc du coup, au mois de mai, je suis retournée dans l'entreprise. Et quand j'ai vu, donc juin, juillet, août, que ça commençait à pas très bien se passer, je dis à mon mari, je dis, écoute, posons-nous la question déjà, est-ce qu'on remonte ou pas? Et on a été convoqués très officiellement un samedi midi, je crois que je m'en souviendrai toujours, par mes enfants, par les deux grands toujours, qui me disent, bon, maman, il va falloir trouver une solution parce que nous, on ne veut pas remonter sur Paris. Donc là, tu sais, tu te retrouves en fait, tu sais, tu te retrouves face à ton mari, tu dis, on répond quoi en fait? Et puis mon mari qui dit, ouais, c'est vrai que moi non plus, j'ai pas très envie. Et puis toi aussi, tu te dis, c'est vrai qu'en fait, on est quand même pas mal ici, j'ai pas très envie non plus de retourner. Donc en fait, l'un dans l'autre, on se dit, bon, de toute façon, comme ça se passe pas très bien, on fait une année de plus, puis on
Et puis
verra l'année prochaine si on remonte sur Paris ou pas, en fonction de comment. Et puis finalement, comme j'ai été licenciée, tu vois, au mois de décembre, donc tu te dis, bah, en fait,
heureusement.
on a bien fait de ne pas se contraindre à remonter sur Paris pour un boulot, alors qu'en fait, 3 mois après, j'étais plus dans l'entreprise.
C'est ça. Comment tu célèbres tes succès?
Comment je célèbre mes succès? Alors, c'est vrai que je dis souvent à mes mamans de célébrer les leurs. Tu vois, j'ai eu des mamans là qui ont fini la semaine dernière la formation et je leur ai dit surtout, hein, vous vous offrez quelque chose, alors peu importe, soit vous faites un gâteau avec vos enfants, soit vous allez vous balader en forêt, soit même vous achetez le dernier sac, machin chose, mais vous célébrez cette réussite de 12 semaines. Et pour le coup, moi, je ne le fais pas forcément. Mais par contre, j'ai un mari très très attentif, j'ai vraiment une perle. Donc lui, souvent, va penser à célébrer pour moi en fait les succès. Ça peut être un petit moment, un petit moment pour moi, un petit moment ensemble. Ça peut être un petit repas le soir quand les enfants sont couchés. Donc voilà, je dirais, il pense mes défauts.
C'est quoi pour toi la réussite?
C'est la réussite, c'est d'être finalement heureux dans sa vie et de se lever tous les matins avec la banane. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que le lundi matin de se lever et de se dire, bon, pff, encore une semaine, vivement vendredi, ou alors vivement la retraite. Je trouve ça hyper déprimant en fait. On n'a qu'une vie. Donc autant le matin se lever et être content de se lever ou être contente de se lever. Et de se dire, allez, chouette, j'ai une journée qui m'attend. Alors, bien sûr, il y a des jours qui vont bien se passer, il y a des jours où on va avoir que des problèmes à gérer. Mais en tout cas, voilà, on est content de se lever, on est content de faire ce qu'on fait. Et finalement, on est heureux, quoi. Je pense que c'est le principal.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Nathalie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Oh, bah. Déjà, je pense qu'elle n'aurait pas du tout imaginé, puisque ces métiers-là n'existaient pas quand j'étais toute petite. Donc, elle me poserait très certainement la question, mais c'est quoi un community management et qu'est-ce que tu fais de tes journées?
On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi?
C'est vrai que quand on fait des choix, en fait, il y a des renoncements. Ben, déjà, le premier renoncement que je vois, c'est le renoncement, en fait, à ne pas rester malheureuse. En fait, à ne pas rester dans une situation, tu vois, dans une situation où finalement, ok, tu es victime, mais tu peux prendre la décision, même si tu es victime, de le vivre différemment, de le vivre positivement, et finalement d'apporter, en fait, tu vois, du bonheur ou d'essayer, en fait, de contribuer. Donc, je dirais, le premier renoncement, voilà, c'est de renoncer à rester malheureux ou à rester dans la situation. Et c'est vrai qu'on passe souvent par une phase inconfortable. Moi, quand je suis passée de salariée, du coup, à 100% indépendante, tu te poses la question quand même, hein. Tu te dis, bon, tu as une famille de quatre loulous, tu as des frais, tu as des charges, etc. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais réussir à financer tout ce que je dois financer? Est-ce que je vais réussir... Et puis finalement, oui, quand tu mets les moyens, tu réussis. Ça prend plus ou moins de temps, tu es plus ou moins à l'aise. Il y a des sujets que tu maîtrises bien, il y a des sujets que tu ne maîtrises pas. Moi, par exemple, l'administratif, c'est catastrophique. Mais je sais que c'est catastrophique. Donc aujourd'hui, je me fais aider par des personnes dont c'est le métier, qui aiment ça et en qui je peux avoir confiance pour pouvoir déléguer et me concentrer sur vraiment ce qui m'anime en fait au quotidien.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer? Il y en a eu beaucoup, mais la plus grande, du coup, celle, si on devait en retenir qu'une seule.
Bah écoute, j'hésite entre tu vois, ma troisième grossesse et ma quatrième grossesse. Les deux ont été particulièrement difficiles pour des raisons différentes. La troisième, parce que c'était une amie, et je pense qu'il n'y a rien de pire que de se faire trahir par quelqu'un que tu pensais être une amie. Enfin, voilà, moi, l'amitié, pour moi, c'est ad vitam aeternam, et c'est ce qu'il y a de. Après l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, je trouve ça catastrophique. Mais donc, ça a été dur, mais d'un point de vue, voilà, amitié. Et ce qui a été le plus dur, sinon, c'est effectivement quand même ces 8 mois. Ces 8 mois où tu te dis dans un premier temps, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et ensuite, tu te dis, OK, c'est du harcèlement. Mais du coup, tu sais, tu es toujours sur tes gardes. Tu es toujours, qu'est-ce qu'elle va encore finalement me sortir, me faire? Et est-ce que je vais suffisamment bien argumenter, ou en tout cas mettre, parce qu'il y a des fois où tu as l'émotion qui prend le dessus, et donc tu te dis, il faut quand même, si je monte mon dossier, que ça soit compréhensible par
Factuel.
des personnes qui n'ont pas vécu le truc, enfin tu vois, qui n'ont pas, donc il faut que j'arrive à sortir de cette émotion et à rester en fait le plus objective possible, même s'il y a toujours une part de subjectivité. Donc je dirais en fait ces deux choses-là, mais en même temps après ça, c'est quelque chose qui derrière construit aussi la personne que tu es. Soit tu te dis, ben, je rumine, je rumine, je rumine. Soit tu te dis, bon, ben voilà, ok, j'ai subi ça, comment je peux en faire une force finalement pour aider d'autres personnes?
Et d'ailleurs, donc tu disais tout à l'heure que tu l'avais attaqué au pénal et prud'homme, ça, c'est fini ou pas encore?
Alors, le prud'homme, j'ai eu donc une première décision en première instance, mais mon avocat m'avait prévenu que comme c'était du harcèlement, que c'était du harcèlement discriminatoire d'ailleurs, que la première audience, on perdrait parce que ce ne sont pas des juges professionnels, hein, ce sont des conseillers prud'homaux. Donc, la première audience, effectivement, je l'ai perdue, mais on a été en appel. Et cette année, au mois de janvier, donc le 6 janvier, la décision d'appel est tombée. Et m'a donné raison sur toute la ligne, donc a condamné l'entreprise en fait complètement sur toutes ses actions. Bon, bien sûr, l'entreprise, on n'est pas resté là, donc elle a fait appel, elle a mis en place en fait une action en cour de cassation. Donc là, on est en attente de la cour de cassation. Et sur la partie pénale, alors la partie pénale, comme je disais, c'est compliqué déjà. Lorsqu'il y a des choses très très graves avec des meurtres, des vols, des machins, d'avoir des condamnations. Donc autant te dire que sur du harcèlement moral, par exemple, la procureure m'a quand même bien fait sentir que je faisais chier pour pas grand-chose, hein, voilà, que j'avais mené une bataille juridique pour pas grand-chose. Donc en première instance, c'est pareil, j'ai perdu. On a eu donc une deuxième instance, donc j'ai fait appel dans la même veine. Et là, on est passé au mois d'avril en deuxième instance et je suis en cours d'attente du résultat. Donc, bon, l'espoir fait vivre, même s'il y a peu d'espoir que ce soit reconnu. Mais je me dis, j'espère, même si je ne gagne pas, parce que de toute façon, le prud'homme a été gagné, j'espère que cette personne-là a bien compris la leçon. Et ne se comportera plus comme ça dorénavant avec d'autres salariés parce que, ben en fait, parce que c'est pas normal et parce qu'en fait, la victime, c'est pas elle qui fait chier en fait. Et ça, je trouve que dans l'état d'esprit des gens, alors je sais pas si c'est juste en France ou si c'est de manière mondiale, mais finalement, la victime, elle fait un peu chier quoi. Elle vient un peu se plaindre, etc. Et en fait, elle n'a rien fait, elle s'est pas mal comportée, elle a pas mal agi. Finalement, elle est dans un rouage et dans une situation qu'elle n'a pas demandé. Et comme c'est elle qui fait, tu vois, par exemple, là, c'est moi qui ai fait l'action d'aller en justice, ben, la proc, elle me l'a dit, hein. Elle m'a dit, mais attendez, ce matin, on était en train de traiter un homicide involontaire, qu'est-ce que vous nous faites chier pour 3 petites réflexions en entreprise? Eh ben, je trouve pas ça normal parce que du coup, ça conforte les gens à mal se comporter. Et ça, moi, j'ai du mal. Donc, j'espère en tout cas que ça aura donné une leçon de meilleur comportement.
Et puis la chance entre guillemets que tu as eue en l'occurrence, c'est que tu avais un entourage qui te soutenait énormément, mais enfin tu aurais pu finir dans un mauvais état suite à ça. Donc
Oui. Oui, bah tu sais que la déléguée du personnel, la celle dont je parlais tout à l'heure, qui était justement en arrêt maladie, quand j'ai eu toutes ces qui se bat beaucoup, beaucoup pour l'entreprise, elle est venue témoigner sur un de mes procès et elle a dit, moi, chaque jour, quand j'arrivais dans l'entreprise, j'avais la boule au ventre de trouver quelqu'un qui s'était suicidé.
Choix.
Tu vois, et donc là, tu te dis, oui, je comprends pourquoi elle a été en arrêt maladie, parce que moi, j'ai, entre guillemets, mon histoire, mais elle se prend de plein fouet,
Tout à
parce
fait
que c'est
ça.
aussi la mentalité de l'entreprise, elle se prend de plein fouet, finalement, toutes les histoires de tous les salariés, parce que c'est quelque chose, finalement, que la haute direction valide. Le fait de harceler les personnes, le fait de les pousser à bout, le fait de les pousser au burn-out, le fait de les pousser à la démission, finalement, c'est validé. Parce qu'elle n'aurait pas eu cette manager, la validation de la direction. La direction lui aurait dit, attendez, ça suffit là, stop. Bah, elle aurait soit arrêté, soit c'est elle qui aurait été licenciée. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quelque part, il y a la validation. Et après, on se retrouve dans des situations horribles, comme celle de France Télécom, où tu as X suicides en fait en quelques semaines. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à un moment donné, il y a eu des alertes, il y a eu des choses qui ont été remontées. Mais c'est la victime qui fait chier, en fait. Elle se plaint pour pas grand-chose, en fait, la victime, tu vois? Elle se plaint parce qu'en fait, elle ne tient pas la pression. Elle se plaint parce que... on lui accorde pas son télétravail. Tu vois, elle se plaint pour des broutilles. Ben non, en fait. Ben
Je
non.
pense que tant que tu l'as pas vécu, tu vois, moi je vais te faire et donc faire aussi un bon aveu aux personnes qui écoutent, c'est que à l'époque où j'avais entendu ces trucs de France Télécom, c'est quand même un truc de malade, quand même, de se suicider à cause de son job. Enfin, c'est quand même,
Ouais.
genre, ils avaient forcément un problème dans leur vie à côté, tu vois. Et suite à mon burn-out, j'ai pas eu de tendance suicidaire, mais j'ai pas eu non plus des idées roses tous les jours, tu vois. Mais clairement, en fait, je me suis dit, tu peux. Alors, moi, je pense qu'il y a l'entreprise, mais il y a aussi le fait. Enfin, il y a le harcèlement, il y a aussi des gens qui font des burn-out parce qu'ils ne sont pas à leur place et compagnie. Enfin, il y a plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte que tu te retrouves dans cette situation. Mais en fait, oui, il y a un moment dans ta vie où tu peux te dire, tu as tout pour être heureux sur le papier. Mais en fait, au niveau psychiatrique, tu dérailles et donc. Bah en fait, ouais, tu peux avoir des idées noires alors qu'en fait, à cause de ton job, à cause de trucs ou d'un prisme extérieur, tu ne peux pas comprendre tant que tu ne l'as pas vécu, en fait.
Tant que tu ne l'as pas vécu. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est tout à fait ça. Tant que tu ne l'as pas vécu, tant que tu n'as pas vécu du harcèlement, moi j'ai quand même été éduquée par un papa militaire. Donc autant te dire que j'ai été éduquée à la garçonne. Je pleurais pas, hein, parce que même si j'étais une fille, je pleurais pas. Voilà, il fallait que je sois endurcie comme un garçon. Il m'a toujours éduquée. Et puis en plus, pareil, il m'a toujours éduquée du genre, si tu bosses, tu auras des résultats. Si tu auras des résultats, tu seras reconnue par ta direction. Si tu es reconnue par ta direction, tu auras des promotions, etc. Enfin, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que, et des fois, je lui dis, hein, je lui dis, mais papa, c'est le monde des bisounours avec toi, parce que grosso modo, si tu te comportes bien, tu es ré récompensé. Or, c'est pas comme ça dans l'entreprise. C'est pas parce que tu te comportes bien que tu es récompensé. Parfois, tu es récompensé parce que tu es au bon moment, au bon endroit, parce que parfois c'est parce que tu es politique. Donc tu sais dire la bonne chose à la bonne personne, même si tu ne le penses pas, en fait. Et donc les personnes qui sont plus honnêtes et qui disent en fait leur façon de penser, ben voilà. Et puis c'est vrai que tant que tu l'as pas vécu, hein, en fait, tu comprends pas. Moi, c'est vrai que je me disais, faire une dépression par rapport au boulot ou se suicider, effectivement, j'étais comme toi, se suicider par rapport au boulot. Je fais non, mais franchement, faut pas déconner non plus. Mais en fait, tu te dis après, quand tu l'as vécu, tu te dis oui, je comprends le mécanisme. Et ce qui est pire encore, c'est que tu vois, par exemple, quand j'étais au procès pénal, donc la procureure qui me dit ça, enfin, qui me dit grosso modo que je fais chier pour pas grand-chose, hein, avec des mots plus politiquement corrects, je dis à mon mari, je dis, tu vois, je me serais suicidée, tu serais à ma place. Ça n'aurait pas du tout été le même discours. Et je trouve ça, en fait, parce que la justice est là quelque part pour nous protéger. Et je trouve ça en fait hallucinant parce que bien sûr j'ai parlé de mon cas, mais j'ai remonté aussi des cas de collègues, donc les deux collègues dont je te parlais, l'un qui a fini en burn-out et qui ne s'en sort pas du tout. Et si tu veux, je me dis, il y a quand même un précédent, c'est-à-dire non, c'est pas la nana, c'est pas Nathalie Grimaud qui fait chier juste pour faire chier parce qu'elle a envie d'enquiquiner son monde. Non, il y a un précédent, il y a eu des choses et puis il y a des traces écrites, tu vois. Enfin, j'avais plus de 150 pièces. De mails, de documents, de témoignages, de machins, etc. Et tu te dis, la justice, elle est aussi là pour protéger les citoyens. Alors, bien sûr, elle est là pour condamner quand quelqu'un s'est mal comporté. Mais finalement, tu te dis, bah, en fait, tu peux te mal co te comporter, c'est pas grave. En fait, il n'y a pas d'impact, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ah
C'est
ouais,
pas
je vois
grave de
bien.
mal se comporter. Et finalement, c'est la victime qui devient quasiment le bourreau. Un peu, tu vois, comme dans les histoires de viol, où quand la personne violée, elle dit, j'ai été violée. Et donc, derrière, elle met en place des actions contre son violeur, etc. Parfois, ça détruit des familles. Parce qu'il y a des personnes dans l'entourage de la personne violée qui disent mais en fait, c'est toi qui fais chier, quoi. C'est toi qui as ressorti cette histoire. C'est pas grave d'être violée. Tu
Ouais.
vois, c'est un peu.
Ah, mais
Et
je vois très bien, hein, parce que enfin, je connais une histoire de pédophilie, et en gros, en mode, mais qu'est-ce que tu vas remuer ça?
c'est ça.
Ouais, en fait, bon, c'est ouais, c'est assez fou. Sans transition, de quoi tu es la plus fière?
Écoute, je crois que je suis la plus fière bah déjà de ma petite famille, c'est-à-dire de mes 4 enfants, de mon mari aussi. Je pense que je suis tombée. Il y en a plein hein, des perles de mari, mais en tout cas, moi, je suis tombée sur une perle. Donc, ouais, je suis très fière d'eux, ça, c'est sûr.
Si tu croises quelqu'un demain qui ne connaît pas du tout ton histoire, qui n'a pas écouté l'interview et qui te dit, ah, mais en fait, super, tu as une boîte, ça marche et tout, tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre?
Alors, la chance, ça se provoque déjà. C'est-à-dire que non, ceux qui ont réussi juste grâce à la chance, bah, moi perso, je n'en connais pas, en fait. Peut-être qu'il y en a dans le monde hein, qui existent, mais je n'en connais pas. Je pense que ceux qui ont réussi, ils provoquent leur propre chance. C'est-à-dire, ils travaillent, ils sont résilients. Bah, c'est ce que je dis souvent aux mamans d'ailleurs que j'accompagne, parce que des fois, elles me disent, ah, mais mon premier client, il m'a dit non, mon deuxième. Oui, mais c'est dans la résilience que tu vas y arriver. C'est-à-dire, oui, peut-être que ton premier prospect, il va te dire non. Peut-être que le deuxième, il va te dire non. Mais je veux dire, les 150 que tu vas avoir, ils ne vont pas te dire non. À un moment donné, c'est non, il y en a un qui va te dire oui. Sauf que bah, si par exemple, c'est le quatrième qui te dit oui et que tu arrêtes au troisième parce que les 3 premiers, ils t'ont dit non, eh bah, tu n'y arriveras jamais, en fait. Donc non, la chance, elle se provoque. Elle se provoque par de la motivation, elle se provoque par de la résilience, elle se provoque beaucoup, beaucoup, beaucoup par du travail. Et les choses aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit souvent, moi je vois souvent des annonces du type, ouais, alors tu vas gagner beaucoup d'argent, grosso modo, en faisant pas grand-chose. Peut-être hein, qu'il y en a un. Moi, je connais personne qui gagne beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose, par exemple. Mais en travaillant beaucoup, en apprenant de ses erreurs, en testant, en retestant, en n'ayant pas peur non plus. Alors moi, c'est la mentalité du digital de tester et de se planter. Ça, c'est dans le digital, ça a
Test and
vraiment été
learn.
quelque chose, ouais, qui m'a été appris parce que bah, finalement, on a appris. Moi, j'ai appris tout au long de la progression de ce marché-là. Et donc, en fait, comme il n'y avait pas de cours que personne ne savait faire, ben on testait, et parfois ça fonctionnait, parfois on se plantait. Et ben si on se plantait, c'est pas grave, on recommençait, on retestait. Et ça, c'est très, très important de ne pas avoir peur de se tromper, finalement, de ne pas avoir peur de se planter, et puis de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai mal fait quand je me suis plantée? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? D'apprendre finalement de ses erreurs, et puis de progresser, en fait. Et avec tout ça, on construit notre propre chance.
C'est clair. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
Un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, oui, principalement dans l'entreprise, ben justement, ce n'est pas le monde des bisounours, ça, mon papa, mais je pense que c'est peut-être le monde de l'armée qui fait ça. Mon papa m'a toujours voilà, dit, de toute façon, voilà, si tu travailles, etc. Non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. On peut tomber sur des très, très bonnes entreprises et aujourd'hui, heureusement, il en existe parce que sinon, ce serait catastrophique, je pense. Mais on peut aussi malheureusement tomber sur des entreprises qui sont nocives ou même sur un manager dans une très bonne entreprise qui est nocif ou des collègues qui sont nocifs. Et donc, à un moment donné, je dirais, c'est de suivre son intuition. C'est-à-dire, quand l'intuition, elle te dit quelque chose, c'est un peu le cerveau reptilien, c'est pas du genre, je suis parano ou je me fais des films ou j'ai pas compris, etc. Si elle te dit des choses, il faut savoir l'écouter. Et se poser à un moment donné et essayer de prendre du recul, c'est pas facile, mais essayer de prendre du recul pour identifier bien la situation, les points positifs, les points négatifs, bien les identifier et savoir en fait bah, ce qu'on doit changer, si on doit changer des choses, et finalement se faire confiance.
C'est clair. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Bah, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense que c'est je dirais mon mari et mon papa quand ils m'ont dit en 2017, mais lance-toi, tu as toutes les compétences pour te lancer, il n'y a pas besoin de retourner en poste, lance-toi et voilà. Et c'est vrai que c'est un très très bon conseil puisque aujourd'hui, je suis contente de me lever tous les matins, je suis contente de faire ce que je fais, même si je travaille beaucoup, hein. Mais voilà, je suis contente et puis je suis contente aussi de pouvoir agir ou d'essayer d'agir en tout cas positivement auprès d'un certain nombre de personnes qui parfois justement n'ont pas confiance en elles ou n'ont pas suffisamment confiance en elles.
C'est quoi tes prochains défis?
Alors, mon défi sur cette année, c'est d'essayer de prendre des vacances. Je prévois toujours, hein, je me dis tiens, là, je pourrais faire ci. Et puis finalement, je suis toujours rattrapée. Mais oui, un défi, c'est quand même de réussir à prendre un peu de temps en décrochant complètement.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Je dirais, j'ai envie de dire merci avant tout à mon mari, qui me soutient tous les jours et parfois, je ne suis pas hyper facile. Mais qui est toujours là dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais moments, parce que c'est, comme je dis souvent à mes mamans, c'est là qu'on reconnaît. Alors, c'est bien d'être en couple, mais c'est encore mieux d'être une équipe au quotidien et de pouvoir se soutenir dans ses qualités, comme surtout dans ses défauts, et de pouvoir être là quand l'autre personne, en fait, a besoin. Donc, ça, déjà, avant tout à mon mari. Bien sûr, à mes enfants aussi qui me supportent aussi, parce que du coup, je travaille de la maison. Alors, pour le coup, parfois, j'ai mes grands qui préfèrent rester au collège parce que je suis trop à la maison. Mais ça, c'est l'âge de l'adolescence. Et puis, bien sûr, mon papa qui m'a toujours, toujours, toujours soutenue en toutes circonstances, qui m'a aussi levé parfois des alertes que j'ai écoutées ou pas. Mais en tout cas, qui est toujours à mes côtés pour essayer de m'aider. Et puis, ben, la dernière personne, je dirais, enfin, j'en ai plein, mais en tout cas, ce manager dont je parlais tout à l'heure chez Performix, qui a su voir plus loin que juste c'est une maman, elle va plus rien glander, elle part tous les soirs à 18h, et voilà, qui a su le voir plus loin et qui a su me faire confiance. Et heureusement que dans le domaine professionnel, il y a des gens comme ça, et j'encourage en tout cas toutes les personnes à agir de cette manière-là, parce que oui, on peut être maman. Mais on peut être aussi une grande professionnelle et c'est pas parce qu'on a décidé d'avoir une famille qu'on devient incapable ou non professionnel. Comme je dis souvent, on laisse pas en fait, on n'a pas accouché de notre cerveau au moment où on a libéré notre placenta, si je peux le dire comme ça rapidement.
Même au contraire, tu vois, moi, c'est souvent d'ailleurs ce que je disais quand j'étais retournée bosser après mon congé mat. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir mes deux enfants dans la boîte de mon mari. Et en fait, ça te force quand tu reviens de congé mat à avoir une efficacité exceptionnelle parce que ta journée, elle est dans un étau et qu'en fait, bah, t'as pas le choix. Et ça, c'est un truc, mine de rien, qui est un vrai plus. Le fait d'être maman, ça devrait être sur un CV comme un truc positif parce que tu te dis, bah, la
Oui.
nana, elle arrive à gérer sa vie pro plus sa vie perso. C'est costaud, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire tu gagnes en efficacité, t'évites de te perdre aussi dans des détails
Bah, c'est
finalement
ça.
qui n'ont pas trop d'importance, etc. T'arrives à tout gérer, à organiser, enfin, t'as besoin de plus d'organisation. Et c'est vrai que c'est des compétences dont on a besoin en entreprise, en fait. Et ça ne devrait pas être quelque chose de négatif. Au contraire, ça devrait être quelque chose de positif. Mais aujourd'hui, bon, peut-être que les mentalités vont changer, je l'espère, mais aujourd'hui, on n'en est pas encore là et c'est quand même, c'est encore, enfin, c'est quand même dommage, vraiment dommage.
Si des mamans ou futures mamans nous écoutent et veulent donc devenir community manager, elles vont donc sur le site de Maman Digital.
Alors, sur le site ou alors sur notre page Facebook ou encore notre compte Instagram. Effectivement, elles peuvent prendre contact avec nous. On répond à tous les messages que l'on reçoit pour donner des informations ou même échanger tout simplement. Parfois, on a des mamans qui juste nous demandent un petit conseil. Donc, c'est avec grand plaisir, en tout cas, qu'on accompagne le maximum de ce qu'on peut accompagner.
Eh bien, génial. Un immense merci, Nathalie. Et puis,
Merci
à
à
très
toi de
vite.
m'avoir reçu. À bientôt.
À bientôt.
J'espère de tout cœur que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co. Et sinon, à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.